Bonsoir, bienvenue dans ce groupe autour des enseignements non duels, des enseignements qui nous parlent de l'unité. Nous sommes le lundi 17 janvier 2011 et je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous ceux qui par la suite écouteront cet enregistrement, ceux qui arrivent en ce moment même. Et qui font que ce groupe peut être bien plus grand qu'il n'y paraît. Voilà, je vais vous inviter à juste quelques secondes de présence à ce son. Et nous commençons par une présence consciente tous ensemble. Merci. Voilà, nous sommes quelques-uns ce soir autour de cette table avec des bougies, un cristal, quelques grignotages et notre motivation à partager à propos des enseignements non-duels dont un cours en miracle, mais pas uniquement, hein, tout ce qui prône la non-dualité. La non-dualité, ça veut dire qu'il y a la source de toute chose, qu'on peut appeler Dieu, l'univers, la source, tout ce qui est, l'amour, voilà. Il y a ça et il n'y a rien d'autre, hein, et nous sommes tous dedans. Les enseignements non-duels, il en existe un bon nombre. Ce soir, nous pourrons... aborder celui qui nous convient. Ce sont tous des tremplins pour reconnaître qui nous sommes, qui est un avec ça. Voilà, la semaine dernière, j'ai été guidé à piocher une phrase dans un cours en miracle, et elle dit ceci: l'éternité et la paix sont aussi étroitement liées que le sont le temps et la guerre. Voilà, si ça peut nous inspirer pour partager quoi que ce soit, bienvenue à ça, ou pas. Et nous accueillons un frère de plus. Voilà, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Ce soir, le programme, c'est qu'il n'y a pas de programme. Et j'adore préparer ces soirées parce qu'en fait, je ne prépare rien. Bienvenue. Allez, on va pousser un petit peu les... Donc j'adore ne pas préparer ces soirées. Autrement qu'au niveau technique. Au niveau technique, je mets quelques assiettes sur la table, j'allume les bougies et le reste est confié à la direction de l'esprit. Bienvenue à vous.
Merci.
Voilà, on a commencé il y a juste 5 minutes. Alors, justement, je vais confier la direction de cette soirée à l'esprit en citant 5 phrases qui se trouvent en page 30 de ce livre, Un cours en miracle, et qui m'aident beaucoup dans ma vie à arrêter d'essayer de contrôler les situations, et en particulier ce soir, pour me laisser guider à intervenir comme je le sentirais, et à dire ou à faire ce que je sentirais de dire ou de faire. Et ces phrases, elles disent ceci: je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de quoi dire ou quoi faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi, je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Voilà. Donc ce soir, on peut partager librement à propos de n'importe quel sujet, et même je vous encourage à partager à propos de sujets de votre vie quotidienne, de sujets qui peuvent être soit vécus difficilement, ou vous avez besoin d'une clarification, vous avez besoin, à la lumière des enseignements non-duels, d'une direction peut-être pour vous positionner, ou comment le vivre, ou comment l'interpréter à la lumière de la non-dualité, qui dit que il y a seulement une chose, c'est la réalité. Et la réalité, d'après le livre de Gary Renard, L'univers disparaîtra, mais qui date de beaucoup avant cela, elle tient en toute vérité, tient en deux mots. Hein, et ces deux mots, c'est la base de ce autour de quoi on peut partager ce soir. Et ces deux mots, c'est Dieu est. Dieu dans le sens tout ce qui est, hein, ou la source de toute chose. Bien sûr, ce n'est pas dans le sens ni religieux, ni dogmatique de ce mot, sachant que nous, en tant que ceux qui se croyons séparés les uns des autres, nous sommes aussi dedans, dans cette source. Et parfois on peut citer le soleil et les rayons, hein, nous pouvons nous considérer comme les rayons d'un même soleil ou un grand océan avec des vagues. Le rayon ne peut pas être séparément du soleil, ni la vague séparément de l'océan. Parce que c'est vrai que c'est difficile, en tant que ceux qui se croient séparés, d'imaginer qu'en vérité, nous sommes un. Hein, nous sommes partie de tout ce qui est. Alors, quand nous disons « Dieu est », c'est une formule assez puissante, parce que si nous partons de cette vérité-là, nous pouvons tout simplement dire que Dieu étant tout ce qu'il y a, il ne peut pas s'opposer à quoi que ce soit. Parce qu'il s'opposerait à lui-même étant tout ce qui est. Donc, un corollaire de ça, c'est Dieu accueille tout. Hein, et si je suis dans cette unité-là, moi aussi, dans l'amour que je suis, j'accueille tout ce qui est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose à laquelle je puisse m'opposer. Hein. Alors bien sûr, nous pouvons vivre des choses différentes de ça, hein, et c'est le royaume de ce que le cours appelle la séparation. Et la séparation, c'est juste la croyance que je peux être séparé de quelqu'un d'autre. Hein. Donc une croyance, tant que j'alimente cette croyance avec mon esprit, l'esprit de séparation, un esprit que le cours appelle l'esprit faux, alors je vais entretenir le fait que il n'y a pas une seule chose, mais il y en a plusieurs. Il y a toi et il y a moi, il y a ce que je veux et ce que je veux pas, il y a le jour et la nuit, etc. etc. Il y a des choses... Mais c'est intéressant de voir qu'une croyance n'est rien d'autre qu'une pensée. Qu'une pensée n'a pas de réalité en soi. Si j'arrête d'entretenir, de mettre de l'énergie dans cette pensée, je peux simplement revenir à moi et à tout ce qui est, et puis retrouver la réalité, retrouver qui je suis vraiment. Voilà. En forme d'introduction, je m'arrête là. La parole est ouverte. À tout moment, vous pouvez intervenir sans demander la parole précisément. On peut couper la parole, se lever pour prendre de la tisane. Et puis dans le panier, il y a des petits papiers qui contiennent les 365 titres des leçons de un cours en miracle. si ça peut être un prétexte pour partager, eh bien c'est le bienvenu. J'ai parlé. Oui.
J'allais justement parler de cette phrase. Super. Parce que la phrase qui a été choisie par la vie, qu'il a tirée d'un courant miracle, qu'il nous a cité tout à l'heure, a priori, ce n'est pas évident du tout. C'est quelque chose comme l'éternité et la paix sont aussi étroitement liées que le sont le temps et la guerre. Donc c'est quand même pas évident, a priori, qu'est-ce que ça veut dire? Je répète, l'éternité et la paix sont aussi étroitement liées que le sont le temps et la guerre. Alors, quand on a des questions sur une phrase, sur quelque chose comme ça, il est toujours excellent, c'est toujours très utile de regarder de quoi on parle. Là, on parle de l'éternité et de la paix. Et qu'est-ce que c'est que l'éternité? L'éternité, c'est pas linéaire. Nous sommes tellement habitués à une réalité temporelle linéaire que quand nous employons le mot éternel, à jamais, pour toujours, nous imaginons quelque chose qui dure dans un temps linéaire. L'éternité dont il est parlé ici, c'est pas ça du tout. C'est le non-temps. C'est l'être tel. Ce que le courant miracle appelle le ciel, ça peut être le vivant, ça peut être la source de tout, qui est au-delà du temps et de l'espace. Alors évidemment, pour nous qui avons choisi une expérience humaine qui suppose le temps et l'espace, a priori c'est incompréhensible. Voilà, c'est comme ça. Et parce qu'on a choisi cette expérience. Donc cette phrase... la paix et l'éternité sont aussi étroitement liées que le sont le temps et la guerre. Alors, là, on touche à quelque chose de fantastique et de pas évident à comprendre. Le temps, la paix et l'éternité. Effectivement, s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de problème. Même notre mental, notre ego peut le comprendre, ça. Il n'y a pas de temps. Donc, bon, je peux l'imaginer, jouer à ça. Il s'imagine, essaye de... Le temps n'existe pas, donc il n'y a pas de passé, pas de futur, il n'y a que ce qui est. Et supposons que je sois Dieu, j'imagine, c'est-à-dire tout ce qui est, la source, il n'y a que réjouissance, il n'y a que plénitude. Et donc il y a automatiquement une paix incroyable et infinie. Maintenant, dans la phrase, la deuxième partie, c'est « le temps et la guerre sont liés ». Et justement, dans notre expérience humaine, qui est comme le courant miracle, l'explique à sa façon, c'est un outil parmi d'autres, un outil non duel, mais il y en a bien d'autres, il le dit lui-même, que dans cette expérience humaine, nous nous sommes amusés à nous imaginer séparés, c'est-à-dire ça suppose une projection, comme dit Krishnamurti, je projette, j'imagine, je m'amuse à prendre une partie de l'infini et puis d'en faire une petite partie que je vais regarder, observer, donc je vais percevoir quelque chose qui n'est pas moi. Et comme disait Krishnamurti, qu'on peut tous dire d'ailleurs, c'est que par définition, ce qui est perçu n'est pas celui qui perçoit. Le percevant n'est pas le perçu. Et donc, dans ce jeu divin qui consiste à dire, tiens, et si on n'est pas qui on était, si on n'est pas qui on est, on va s'amuser à imaginer une séparation, et en fait c'est impossible parce que ce qui est, est. Mais, même si c'est impossible dans la réalité, comme nous sommes divins à l'infini, puisque nous sommes le divin, il n'y a que le divin, l'esprit de Dieu, et cet esprit-là ne s'oppose jamais à lui-même, y compris à ce qu'il peut imaginer. Et le cours nous explique que c'est cette petite pensée qu'il appelle la petite idée folle, qui donne naissance à tout l'univers que nous pouvons observer. Il est vrai que la plupart de nos frères et sœurs ne capte pas vraiment ce dont nous parlons parce que c'est tellement bien fait, cette imagination d'être séparé, que ça nous semble vraiment la réalité. Et c'est bien fait comment? Par deux choses, dont la deuxième est encore plus forte que la première, nous explique le cours, c'est l'identification au corps physique et l'invention du temps. L'invention du temps, et les physiciens quantiques à l'heure actuelle commencent à vraiment scientifiquement prouver que le temps n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire que dans leur expérience personnelle, assez scientifique, parce qu'ils ont des hommes et des femmes, comme nous tous, ils font une expérience humaine comme nous, et même si intellectuellement ils vont dire le temps n'existe pas, dans leur vie concrète, pratique, si on va regarder en détail, on va voir qu'évidemment ce n'est pas vécu la plupart du temps, ou c'est très peu vécu, comme pour la plupart d'entre nous. Et donc la notion de temps, l'identification au corps permet de s'imaginer être séparé de tout ce qui n'est pas nous, c'est-à-dire du monde extérieur. Et effectivement, c'est terrifiant. On veut même pas, c'est tellement terrifiant qu'on ne veut même pas le savoir. Alors on fait semblant de cacher tout ça, de ne pas en parler, et puis d'aller dans essayer d'arranger les choses, d'attendre les Jeux Olympiques, d'attendre d'être premier à l'école, d'attendre une relation amoureuse, d'attendre de l'argent, une promotion au travail, etc. On est toujours en attente de quelque chose qui va nous apporter un peu de bonheur, et ça ne fonctionne jamais vraiment. Et quand on a, du coup on nous explique, la démarche de l'ego, c'est « cherche mais ne trouve pas ». Parce que si je trouve une relation, et si je trouve le partenaire idéal, je dépends de ce partenaire. Donc, quelque part, je n'existe pas. Je ne suis pas plein, je ne suis pas le Dieu, je ne suis pas le divin que je suis. Et si cette personne décède, ou si tout d'un coup elle part avec quelqu'un d'autre, je ne suis plus rien, puisque j'ai eu besoin de cette personne, de cette relation, pour tenter d'avoir un peu de bonheur. Donc, je suis sans cesse menacé à un point formidable. Alors, bon, pourquoi est-ce que... Alors, ça, c'est le corps physique. Et pourquoi est-ce que le temps, c'est encore un instrument encore plus, j'aime pas ce mot-là, mais disons diabolique, extraordinaire, incroyable. Parce que l'imagination du temps, nous explique le cours, permet à ce jeu de se croire séparé, permet d'avoir l'illusion que nos pensées n'ont pas d'effet. Alors que nous sommes esprit éternel, nous sommes le, il n'y a que Dieu, Dieu est, et disons, cet esprit est un, c'est un esprit qui... est sans cesse en création de lui-même, d'ailleurs, c'est-à-dire il s'étend lui-même, il est amour, mais l'imagination du temps permet de imaginer des pensées séparées et ne pas voir qu'elles ont un effet immédiat. Et donc, il y a le temps linéaire. Et c'est ce qui se passe. Alors, on va, par exemple, avoir une relation amoureuse, et puis les deux partenaires vont faire attention à ce que les corps physiques n'aillent pas se frotter à d'autres corps physiques, mais en revanche, on ne regarde jamais ce qui se passe dans l'esprit de chacun. C'est très fort, ça. Et alors qu'en fait, l'esprit est toujours libre. Et les esprits sont un. C'est ce que nous explique le cours en miracle. Et pourquoi est-ce que, dans cette phrase, la paix et l'éternité sont aussi étroitement liés que le sont la guerre et...
Le temps,
c'est parce que lorsqu'il y a identification à un être séparé, il y a immédiatement besoin d'attaquer et de défendre. C'est automatique. On voit ça chez les animaux d'ailleurs. L'animal, il perçoit aussi. Et donc, il est tout le temps prédateur. Et toute la nature n'arrête pas de s'auto-dévorer. Et pourtant, la nature est extraordinaire parce qu'elle est le symbole de notre unité. Parce que la mort n'existe pas, donc apparemment la nature s'auto-dévore sans cesse, mais elle s'expanse. Et elle est infinie. Donc cette phrase-là est quand même très 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 forte. Le temps est utilisé dans le jeu de la séparation, pour qui tente à prouver que la séparation est réelle, c'est impossible, et ça, c'est l'utilisation du temps par l'ego. Et le cours nous explique qu'en fait, il y a deux utilisations du temps. Celle de l'ego, qui consiste effectivement à fuir et à vraiment prouver qu'on est séparé et qu'on est menacé et qu'il faut aller sauver Willy, il faut aller sauver les gens, il faut faire de nouvelles politiques, il faut aller protéger les individus. Et puis, l'utilisation du temps par l'esprit un, ce que le cours appelle le Saint-Esprit, c'était le langage de Jésus il y a 2000 ans, il est repris dans le cours en miracle. Enfin, c'est l'Esprit qui finalement gère l'ensemble de l'univers. cette utilisation, elle sert à nous réveiller, c'est-à-dire à nous rappeler qui nous sommes. Et c'est le but de l'incarnation humaine. Et nous commençons maintenant à nous rappeler que les 6 milliards 800 millions que nous sommes, eh bien nous avons le même but, qui est de nous réveiller. Ça ne veut pas dire que tout le monde, que tous les 6 milliards 800 millions comprennent ce dont nous parlons ici. Cela signifie qu'à un niveau très profond, nous avons une seule volonté qui est le réveil. Et on va même voir que dans l'univers entier, c'est la même chose avec ce que nous appelons les extraterrestres ou les intraterrestres. C'est-à-dire que puisque tout est un, disons que ce réveil est global, général, cosmique, universel, total et infini. Dans l'expérience humaine, et on dit que cette planète est une planète extraordinaire parce que l'obscurité, les paires d'opposés, le bien, le mal, tout ça a été autorisé, le libre arbitre a été autorisé à un niveau incroyable. Et c'est pour ça que l'univers entier est passionné par notre aventure terrestre. Le grand éclat de rire, c'est que, quand on voit ça, on peut se dire au départ, c'est pas facile, on va dans le mur là, parce que, oui, mais nous sommes en train de nous rappeler qui nous sommes. Et donc, on ne peut pas aller dans le mur. Tout ça, c'est imaginé, à cause de qui nous sommes. Parce que, comme disait tout à l'heure Adi, en commençant ce groupe, il y a Dieu est, la source est, et nous sommes cette source qui s'exprime. Le cours en miracle nous explique que le Créateur, et nous sommes la créature du Créateur, eh bien, dans le monde de l'ego, le monde de la séparation, créer quelque chose, c'est projeter à l'extérieur de soi quelque chose. Tandis que dans la réalité divine que nous sommes, que nous ne pouvons pas ne pas être, créer, c'est s'étendre soi-même. Donc Dieu, ou la vie, s'étend lui-même. Il s'étend lui-même en tant que nous. Et ça, c'est sacré, c'est inviolable, c'est... Quel que soit ce qu'on peut imaginer, séparation, violence, c'est inaliénable. Nous sommes qui nous sommes. Nous ne pouvons pas ne pas être qui nous sommes. Et nous sommes en permanence créateurs. Et des créateurs tellement extraordinaires, tellement fabuleux, qu'on imagine ce monde apparemment chaotique. On a fait un jeu, et ce jeu semble tourner mal, parce qu'il est tellement bien fait. C'est pour ça qu'on va nous dire, mais réjouissez-vous de vos larmes, de vos souffrances, de vos angoisses, etc. Parce que vous êtes libre. Et quand vous êtes libre d'imaginer ça. Et donc voilà, c'est intéressant cette phrase, parce qu'elle n'est pas facile. Cette phrase que tu as tirée, Ali, effectivement, on voit bien que la paix est l'éternité. Et l'éternité, c'est le non-temps. C'est la réalité de qui nous sommes. Et c'est automatiquement paix. Le temps et la guerre sont étroitement liés. Parce que le temps n'existe pas, mais dans l'imagination, on imagine un futur et on imagine un passé. Et on a souvent partagé ici que par rapport au passé, c'est la culpabilité, c'est « j'aurais dû » ou « il aurait dû » ou « je ne peux pas lui pardonner ». Et donc il y a une culpabilité profonde, soit vis-à-vis de soi-même, soit vis-à-vis des autres. Et on culpabilise, on fait des ministères de la justice, il faut punir, il faut trouver des coupables. Pourquoi ? Pour essayer de dire que nous-mêmes ne sommes pas trop coupables. Tout le temps, c'est comme ça. Nous ne travaillons que sur nous-mêmes. Donc, la culpabilité par rapport au passé et par rapport au futur, la peur, l'angoisse par rapport à des dangers et par rapport à une menace. Et c'est ce qui crée les guerres. Parce que nous sommes créateurs. Et quand j'ai peur et que je veux me défendre, comme dit le cours en miracle, c'est une des leçons, si je me défends, je suis attaqué. Et donc, le temps suppose un futur et comme je veux me protéger, donc je vais commencer à faire des stratégies de défense. Et donc j'attaque, et donc je crée la guerre. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Voilà, j'ai pas envie d'en rajouter trop, mais c'est quand même, merci, parce que c'est une phrase qui, a priori, effectivement, peut être très choquante. Et pour les gens qui ne sont pas habitués à la non-dualité, ce qui est quelque chose d'extrêmement simple, c'est qui on est. C'est il n'y a que Dieu, ou il n'y a que la vie. Il n'y a que l'esprit un que nous sommes. Et ça, c'est inviolable. C'est inaltérable. C'est pour ça que l'introduction du cours en miracle se termine par ces mots. Ce cours peut très simplement se résumer de la manière suivante. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela se trouve la paix de Dieu.
sens guidé à parler de du maintenant et sa relation avec, par exemple, la méditation. Eckhart Tolle disait une chose qui, même pour moi qui ai l'impression de vivre les événements les uns après les autres dans un cadre linéaire, Eckhart Tolle disait cette belle phrase, nous ne faisons les choses que dans le maintenant. Quoi que ce soit que je fais, que j'ai fait dans ma vie, ou quoi que ce soit que je ferai demain, se passera dans le maintenant. Et pour moi, là, c'est facile, même pour mon ego, c'est facile de comprendre que je ne vis que le maintenant. Jamais. Il n'y a jamais rien d'autre à part dans ce que j'imagine, la mémoire que je relis à ce que j'ai fait hier ou la semaine dernière, la projection que je relis à ce que je ferai demain ou dans un an, ou en 2012, mais quand je ferai ça, ce sera toujours le maintenant. Et pour moi, il n'y a que le maintenant, tout se passe maintenant, c'est l'éternité, c'est un éternel présent. C'est pas trop difficile d'imaginer que si je suis déconnecté du mental qui projette ou qui se rappelle, il n'y a rien d'autre que le maintenant. Et que ce maintenant-là, étant un esprit infini, éternel, qui ne naît pas, qui ne meurt pas, et ben je suis toujours dans ce moment-là, dans le maintenant. Et en effet, dès que je suis dans le maintenant, par exemple quand je médite, j'essaie de rester centré, ben parfois il va y avoir des allers-retours, bien sûr, entre centré ou décentré. Si je suis connecté à ma respiration, je suis toujours dans « qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Et dans ce maintenant-là, il y a une paix. Il y a une paix parce que je ne peux pas trouver la paix, je ne peux pas être en paix si je commence à utiliser mon mental qui invente un conflit avec un autre, et ça ne se passe pas maintenant, qui invente une victime et un bourreau, qui invente un problème, qui, encore une fois, ça se passe dans cet ego-là, qui se croit séparé des autres et qui est appelé par le cours l'esprit faux, hein, c'est-à-dire que c'est un esprit imaginaire. J'ai imaginé la réponse à la question « qu'est-ce qui se passerait si les choses n'étaient pas ce qu'elles sont ?» Et c'est une question absolument absurde, parce que les choses sont ce qu'elles sont. Et qu'est-ce que sont les choses ? Nous sommes un, hein, en tant que tout ce qui est, nous faisons partie de ça, mais pendant un bref instant, nous décrit le cours dans le chapitre qui s'appelle « Le héros du rêve », nous avons eu une idée folle qui disait cela. Qu'est-ce que seraient les choses, si elles n'étaient pas ce qu'elles sont ? C'est-à-dire, si nous n'étions pas divins, éternels, puissants, créateurs à jamais, comment seraient les choses ? Et nous avons eu cette idée, nous avons oublié d'en rire, hein, selon les textes, le texte du cours. C'est-à-dire, nous avons pris ça au sérieux, cette idée-là. Et nous avons créé la séparation par cet oubli d'en rire. Cette pensée-là a eu des effets que nous avons qualifiés de réels et sérieux. Voilà, donc peut-être aussi que le chemin pour sortir de cette idée de séparation, c'est de se rappeler de rire de ce qui nous arrive, y compris les choses qui apparemment sont difficiles, y compris lorsque quelqu'un que je crois percevoir en face de moi me dit des choses que je considère blessantes, hein, me renvoie des jugements ou me renvoie des choses pas agréables. Voilà. Donc, c'est sûr que dès que je sors du maintenant, il y a, comme le disait Sylvain, je sors de ma méditation, alors là, je peux trouver matière à la guerre, je peux trouver matière au conflit. Et le conflit, c'est rien d'autre que une chose s'oppose à une autre. Hein. C'est l'antithèse de Dieu est, le conflit. Hein. Dans la paix éternelle, il n'y a pas de conflit. Et si je suis dans le maintenant, connecté à qui je suis, eh bien dans ce maintenant-là, il n'y a personne en face avec qui faire un conflit. Il y a même en moi, si je reste par exemple à l'écoute des battements de mon cœur, dans ces battements-là, il y a le maintenant, et dans ce maintenant-là, il y a la paix. C'est pour ça que la méditation a du succès. Hein, c'est pour ça que quand je suis agité, le fait de m'asseoir et d'écouter la respiration, ou simplement de rester avec le moins de pensées possible, ça apaise les choses. Donc en effet, oui, moi qui enseigne la méditation active, hein, la méditation active, c'est une manière de commencer par activer l'énergie, de nettoyer les perturbations mentales, pour mieux s'asseoir en silence après. Ça veut dire quoi nettoyer les perturbations mentales? Ça veut dire les laisser pour ce qu'elles sont, des agitations de mon mental qui pense qu'il y a un conflit, qui pense que je suis séparé. Donc c'est un moyen de retour à soi, hein, mais ça repose sur cette vérité simple que dans le maintenant, il n'y a jamais aucun conflit, il n'y a jamais aucune peur. Les peurs sont toujours en relation avec le passé ou le futur. Voilà. Et c'est pour ça que cette phrase est puissante, hein, parce que la paix et l'éternité, c'est bien qui je suis. Hein. La guerre et le temps, merci, c'est bien qui je crois être. Et donc c'est bien d'une part la réalité et d'autre part l'illusion. Et ces deux couples-là sont bien reliés ensemble. Et je peux vraiment parler de leur alternance dans ma vie. Hein, quand je peux soit céder à l'agitation, ben je vois que ça commence à faire conflit en moi, ou soit regagner mon centre et ma paix, et là je sens que le temps ne veut plus rien dire pratiquement. Hein, puisque c'est toujours le maintenant. Hein, c'est assez puissant, hein, cette phrase. Donc, quand je suis agité, il y a fort à parier que j'ai quitté le maintenant. Et une manière de quitter l'agitation, c'est de revenir au maintenant. Parfois, ça va prendre du temps, hein, mais il suffit d'une bonne volonté, un petit désir, comme le nomme le cours en miracle, pour dire... c'est pas les manifestations de l'ego et de l'agitation qui me rendent heureux, c'est pas ce que je veux dans ma vie. Quand ça arrive, eh ben, je vois l'effet que ça a sur moi. Et je sais, avec ce petit désir de me retrouver, comment revenir à qui je suis, hein, en m'arrêtant un petit peu, en demandant de l'aide à la partie de moi, pur esprit, qui n'a pas quitté la paix, qui n'est pas dans le temps. Le cours l'appelle le Saint-Esprit, mais c'est moi, hein, c'est aussi une partie qui n'est pas dans le rêve, dans ce rêve-là. Voilà, donc ça peut donner un bon aperçu de tout l'enseignement, hein, cette phrase, avec ses apparents opposés.
En même temps, si je peux me permettre un mot, c'est vrai.
Ouais. Approche-toi un petit peu.
Je participe. Nous sommes là au bon endroit, au bon moment, à l'heure avec nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est pour devenir conscient. C'est-à-dire tout notre péril, c'est bien pour devenir autoconscient, donc esprit individualisé, en fait. Il n'y a pas de culpabilité, disons, de nous être sentis séparés. Je le lance comme ça et je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il n'y a pas de culpabilité de s'être senti séparé, puisqu'en fait, là, il y a une démarche de revenir à la conscience, à la relation, d'avoir été peut-être pour chacun d'entre nous à un moment donné, peut-être que là on se sent au bout du chemin et il y a l'envie de revenir à la maison. C'est le guide qui nous y dira. Je ressens comme un guide qui prend par la main pour revenir à la maison, pour pouvoir discerner entre l'ego et puis... Et puis cet esprit saint, effectivement, auquel nous sommes chacun d'entre nous reliés, puisqu'on est parti de même aussi. Pour Moi, je dis ça parce qu'il y a un moment donné, moi, je me suis senti effectivement coupable d'être séparé. À partir du moment où on me dit, tiens, tu es séparé, tu ne l'es pas. Enfin, tu t'es senti séparé, tu ne l'es pas. Il y avait une petite culpabilité qui était en train de naître. Mais en fait, j'en déduis qu'il n'y a pas à se sentir coupable. Là, tel que je le ressens maintenant, je ne me sens pas coupable d'avoir vécu cette séparation. J'ai vécu toutes les expériences qui me montrent là où je me cogne, en fait, peut-être mes limites, les limites de l'ego, quoi, en fait. De mettre à jour toutes les facettes, en fait.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, la source de nos difficultés ou des souffrances, c'est pas la pensée de séparation, c'est le jugement de la pensée de séparation. Alors en même temps, on peut se sentir coupable d'être coupable. C'est pour ça que tu as un grand éclat de rire. Et on commence par et on accueille aussi bien ce sentiment de culpabilité par rapport au passé que les peurs du futur. On dit, tiens, oui, c'est vrai, j'ai peur. Tiens, je me sens coupable. Et justement, on regarde ça en face. Et en fait, c'est utilisé par l'esprit. Tout à l'heure, je parlais des deux utilisations du temps. Et en fait, j'ai pas fini. Je voulais dire, il y a l'ego qui se sert du temps pour prouver que la séparation est réelle, pour prouver qu'il est victime. Et l'esprit qui se sert du temps illusoire, mais qui nous apparaît réel pour, dans un temps illusoire, c'est-à-dire une vie humaine, des mois, des semaines, des années qui passent, nous donner des expériences dans notre rêve avec le temps, qui finalement, on s'aperçoit que ça nous réveille progressivement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'on ne maîtrise rien, et qu'on ne maîtrise pas du tout le jeu, et que simplement dans ce jeu, il y a apparence simplement de choix. Et la seule chose, tout à l'heure, Ravi parlait de cette bonne volonté, c'est quelque chose de permanent, c'est de dire oui. Oui à l'instant présent, oui à ce qui se passe, en disant je ne sais pas ce que c'est, mais je dis oui. Et d'ailleurs, l'humanité a toujours senti ça. Et un exemple qui est assez intéressant d'observer, c'est ce qui s'est passé avec le personnage Marie. Et il n'y a pas d'ailleurs que dans l'histoire de judéo-chrétienne, mais il y a ça aussi dans d'autres traditions, où finalement, dans les textes qui ont été conservés arbitrairement, plus ou moins, enfin ça n'a aucune importance, eh bien il n'y a rien sur elle, pratiquement rien sur cette femme. Mais partout, si on sort, on voit des basiliques, des chapelles, des cathédrales dédiées à la Vierge Marie, à Marie, Marie, partout, Marie, Marie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a cette notion de fiat. Le fiat, en latin, ça veut dire que cela soit, dire ok, d'accord, ça veut dire oui. Ça veut dire oui, oui, d'accord, ok. Bon, tu vas enfanter, ah, oui, bon, ok. Elle peut avoir peur d'ailleurs, ça n'empêche pas, mais je dis oui. Et quelque part, on a toujours senti cet appel à dire oui à l'instant présent. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se sentir coupable par rapport au passé. Et d'ailleurs, cette culpabilité est utilisée par l'esprit. Et puis, il vient à un moment, pour les uns et les autres, comme tu viens d'exprimer, où la culpabilité disparaît. Ça devient un jeu joyeux. Mais elle est utilisée au départ. Même les peurs sont utilisées à la même chose. Parce que c'est inconfortable. On dit, pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? Donc, je les regarde en face. Au lieu de les fuir et d'aller les projeter en disant, j'ai peur parce que tu es un salaud. J'ai peur parce que tu ne m'as pas donné ma... Je ne sais pas quoi, enfin bref. Non, j'ai peur, c'est mon affaire, pourquoi? Et alors, tout ça est progressif. On voit bien dans les thérapies, et les thérapeutes travaillent énormément sur eux-mêmes, c'est qu'ils sont en individuel, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui vient les voir, et puis on parle, on échange, on fait des soins, enfin bref, des tas de choses. Mais finalement, ce qui est important dans la thérapie individuelle, ce que les Anglais appellent one-to-one, c'est que l'autre, le partenaire, le conjoint, les enfants, ça disparaît. Et la personne, et on voit de plus en plus de personnes qui disent « Bon, j'ai des problèmes avec mon conjoint, avec mes enfants, avec ceci, cela, mon employeur, mais c'est mon affaire. Donc je viens vous voir, je veux en sortir. Je me sens quelque part responsable au sens de « c'est moi qui crée ça ». Et ça, c'est quelque chose de nouveau dans cette démarche actuelle, et on se prend davantage en main, et c'est là que ça se passe, justement. C'est plus l'affaire de l'autre. Bien sûr, ça paraît l'affaire de l'autre. J'ai une relation... Et puis l'autre m'agace, avec des comportements aberrants, etc. Ok, donc j'ai l'impression que l'autre se fout de ma gueule, quoi. Se moque de moi, etc. Très bien, ça c'est pas nié, bien sûr. Au contraire, ah oui, bon. Mais c'est moi qui ai créé ça. C'est ça justement l'enseignement de Manuel, on dit, mais au lieu de toujours regarder à l'extérieur, je regarde à l'intérieur. Et le cours nous encourage en disant, regardez à l'intérieur. Go within en anglais, c'est tout le temps. Et en fait, on ne veut pas regarder à l'intérieur. Et pourquoi on ne veut pas regarder à l'intérieur? Parce qu'on a peur de ce qu'on va voir. Et pourquoi on a peur de ce qu'on va voir? Parce qu'on subodore qu'on va voir ce pourquoi on se prend. C'est-à-dire un être vil, coupable, avec des pensées de meurtre, avec des colères, avec des jalousies, des peurs, un tas de choses, et des fortes culpabilités. Terrifiant. Et donc, il ne faut surtout pas regarder ça. Alors on laisse ça sous le tapis et puis on s'occupe des autres. Et d'aller les juger, d'aller essayer de les sauver, d'aller faire un tas de choses. Ce qui est ok, parce que le mal n'existe pas. Donc temporairement, tout ça, c'est ok. Ça va. Parce qu'on a choisi quand même une expérience hyper forte, où l'illusion est très très bien faite. Donc, avoir ces besoins d'attaque, de défense, de surtout pas regarder à l'intérieur, ah oui, d'accord, je comprends pourquoi. C'est pas évident. Donc, quand j'ai un frère ou une sœur qui vient et qui me dit, bah, tu sais, moi, tout ce que tu racontes, ça me parle un peu, mais moi, j'en suis pas là, moi, je dis, je te comprends. Je te comprends. Dans la voie de la maîtrise, j'ai lu d'ailleurs une question qui était posée à Jésus en disant, mais dis donc, on dit que sur la croix, tu aurais dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, c'est ultra connu, c'est une phrase qui est très connue. Et il a répondu à travers Jaïa qui canalisait, et j'ai adoré cette réponse, quelle que soit la signature de celui qui parle, ça ne fait rien. Écoutez, si je n'avais pas connu tout, la jalousie, la luxure, les envies de meurtre, n'importe quoi, tout ce que vous pouvez imaginer, et il parle bien de luxure, il emploie le mot lust en anglais, eh bien, tout ce que je vous dis, vous pourriez le mettre à la poubelle. Je suis venu, et ainsi que vous, et c'est le message que nous avons reçu cet été à Crandall Hall, fin août, en Angleterre, dans le Somerset, j'étais avec Gavin, nous étions 65 dans un groupe justement avec Jayem, et avec Yeshua qui nous parlait, et en disant, mais vous aviez choisi de revenir encore une fois pour réépouser, pour aller vraiment épouser toute cette obscurité, qui n'a rien de mal, mais qui, c'est une obscurité. C'est-à-dire, c'est un manque d'amour apparent, mais c'est inventé, imaginez, mais n'empêche que ça paraît réel, pour aller réépouser tout ça, donc ces pensées de meurtre, de jalousie, de cette peur du manque, etc., ces culpabilités, pour pouvoir davantage comprendre vos frères et sœurs, et puis, avec le travail de l'esprit, finalement, laisser briller votre lumière. Et c'est ce que nous faisons. Et Jésus, il y a 2000 ans, disait, vous êtes la lumière du monde. C'est ça qu'il voulait dire. Tout le monde est la lumière du monde. Mais c'est vrai que certains, et c'est pas nié, temporairement, dans un temps illusoire, mais qui semble un temps linéaire, certains semblent un peu plus avancés que d'autres. Et donc, ils sont utilisés, les personnages sont utilisés pour attirer, pour laisser briller la lumière, et finalement, attirer les autres. Mais ce n'est pas volontaire. Et si j'essaie d'attirer les autres, j'ai perdu le message. Et c'est drôle parce que il y a 2-3 jours, j'étais allé à une méditation avec Marianne Dubois, où il y avait au moins 120 ou 140 personnes. Et à la fin, c'était comme une grande chapelle gothique. Et j'étais amené à la fin, parce que Marine disait, bon, ben, si quelqu'un veut parler, à me lever et aller au micro, à prendre le micro et à redire quelque chose que j'avais vécu avec Marianne. Et je vais le redire ici. Marianne, j'avais été la voir à Viarmes, chez elle, près de Chantilly, et puis nous avions bavardé comme deux enfants, très plaisamment, avec beaucoup de rire. Et puis à un moment, elle me dit, est-ce que tu veux qu'on écoute ensemble pour savoir si quelque chose vient? Je lui dis, ouais. Bien sûr, moi j'adore. Ouais. Une phrase est venue, une phrase, qui est la suivante. Au lieu d'essayer d'attirer les autres là où tu es, rejoins-les plutôt là où ils sont avec ton cœur. Au lieu d'essayer d'attirer les autres là où tu es, rejoins-les plutôt là où ils sont avec ton cœur. Et c'est bien le message de Crandall Hall, où finalement on a réépousé tout ça pour comprendre nos frères et sœurs. On dit, tu viens en pleurant, en disant, bah oui, mais eh bien je te comprends. Et je te juge pas, au contraire, mais je comprends, tu fais un travail magnifique. Tu as choisi ton incarnation, tu as choisi tout ça, à un autre niveau, bien sûr, tu as oublié, pour pouvoir travailler, participer à ce réveil général, universel, cosmique. C'est magnifique. C'est pour ça qu'il y a tant d'êtres qui se passionnent pour l'aventure terrestre. On a de plus en plus d'informations là-dessus. Et le grand éclat de rire, c'est que justement, on ne fait rien. On ne fait rien que observer. Avant, on avait l'illusion de faire quelque chose. Et d'ailleurs, ici, nous parlons d'un cours en miracle. C'est quand même pas un titre anodin, ça, un cours en miracle. Et dans le cours en miracle, qu'est-ce qu'il est dit par rapport à ceux qui font des miracles? En anglais, il l'appelle « the miracle workers », ceux qui font des miracles. La première des caractéristiques, c'est qu'ils n'en font pas, des miracles. Ils les laissent se faire, fondamental. Alors, tout ça, c'est une bonne blague, mais en même temps, donc c'est rigolo, tout ça, c'est amusant. Mais le sérieux est utilisé parce qu'il y a besoin d'un sérieux temporaire. Et même le cours nous dit, comme disait tout à l'heure Avi, ça a commencé, tout a commencé ce chaos, quand on a oublié de rire à la pensée de séparation. Parce qu'effectivement, c'est marrant, on peut pas, ça n'a pas de sens de dire, et si nous n'étions pas qui nous sommes, donc c'est drôle, c'est un jeu. Mais c'est tellement bien fait, tellement puissamment fait, qu'on a été piégé là-dedans. Tellement c'est bien fait. Parce qu'effectivement, on y va avec la puissance divine pour inventer ça. Et c'est là que Jésus est un psychologue extraordinaire, parce qu'il nous explique que c'est par le corps, avec l'identification au corps, et le temps. Et le temps est quelque chose de très important, c'est génial comme imagination, le temps. Génial, c'est extraordinaire, pour faire semblant que nous sommes séparés. Mais c'est impossible. Et nous sommes en train de nous réveiller avec une joie formidable, et on se réveille comment? Bien sûr, là, on emploie des mots, ici, autour de cette table. Très bien, mais c'est pas ça. C'est la pratique des mots. Et comment est-ce qu'on pratique? On pratique qui nous sommes, on pratique ce qui est vrai, donc qui sommes-nous? Nous sommes l'amour. Donc c'est pour ça qu'on peut oublier tous les mots, tous les enseignements, tout ce qu'on raconte, mais dire, ben, j'ai envie d'aimer, et j'ai envie vraiment d'aimer. J'ai envie d'ouvrir mon cœur. C'est ça qui a un sens. C'est ça, dans cette phrase, au lieu d'essayer d'attirer les autres là où tu es, on essaye... Non, non, attends. Tu fais confiance à l'esprit, chacun est parfaitement guidé, et tu rejoins l'autre là où il est avec ton cœur. Ben, ça a vraiment un sens.
Oui. Mélanger les pinceaux, je vais la lire. L'éternité et la paix sont aussi étroitement liées que le sont le temps et la guerre.
Effectivement, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, m'a interrogé longtemps. Et quand tu viens de me poser la question, je n'ai pas la réponse. Je ne l'ai jamais. Moi, je ne sais rien. Mais j'écoute. Et j'ai tiré la leçon 49, qui est pour tout le monde, évidemment. La voix de Dieu me parle tout le long de la journée. Me parle comment? Par mes pensées. Et le message que nous avons pris, là, mes pensées sont des propositions divines. À chaque fois... Alors, j'ai peur, oui, non. Donc, Dieu nous parle. Alors, je reviens à ta question. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette culpabilité? Ça provient de qui tu es. Ça provient de qui tu es, parce que tu es tellement divin, mais d'un côté, le jeu est tellement bien fait, que il y a quelque chose qui ne colle pas. Et donc, ça crée une culpabilité. Une culpabilité, c'est-à-dire, et les cours électriques, j'ai pris la place de Dieu. Dieu, c'est toi, c'est qui tu es. Donc, il y a comme un mal-être formidable. Et d'ailleurs, certains guides, on a des messages là-dessus, nous expliquent que quand il y a décision en pleine connaissance de cause d'aller expérimenter la séparation, eh bien, il y a comme un déchirement. Un peu comme l'enfant qui est dans le sein de sa mère, et puis au moment de la naissance, il y a une peur en disant « Ah, là, il va falloir que je me débrouille tout seul. » Et il y a une peur par rapport, parce qu'il y a une séparation. Et donc, Donc il y a beaucoup de peur. Et puis, il y a ce sentiment, finalement, d'avoir, c'est illusoire bien sûr, pris la place de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu, à ce moment-là, est extérieur. On ne sait pas ce que c'est Dieu. C'est comme la puissance qui fait tout marcher, toute la nature, les saisons, c'est incroyable. Et on sent bien qu'on ne maîtrise pas ça. Et donc, il y a une culpabilité qui naît parce qu'on a l'impression qu'on a tué Dieu, qu'on lui a pris sa place. C'est imaginé, c'est pas vrai. Et ça vient de là. C'est difficile à comprendre, ça, c'est vrai. C'est pas évident. Mais c'est très, très fort.
C'est très fort. C'est des choses qu'on a au fond de nous, ouais. Enfouies.
C'est inconscient.
C'est une culpabilité inconsciente. Ça.
C'est inconscient, oui. Oui.
L'idée d'avoir oublié de rire de la séparation peut, au moment où nous avons eu cette pensée, au moment où les effets réels ont semblé se produire, c'est-à-dire le monde, le temps, l'espace, la personnalité, à ce moment-là, comme nous avons pris ça au sérieux, voire au tragique, oulala, qu'est-ce que j'ai fait ? Nous avons eu peur d'avoir déplu à Dieu, hein, d'avoir commis une erreur, une faute pour laquelle nous allions être punis. En gros, c'est qu'est-ce que j'ai fait ? Oulala, je vais me faire gronder. Hein. J'ai imaginé d'être à part de Dieu, donc ça va déplaire à Dieu. Donc, depuis cette pensée séparée, parce qu'en fait, dans la réalité, rien ne peut déplaire à Dieu, puisque Dieu ne connaît qu'un seul mot, c'est d'accord. Donc tu veux penser, pense. Tu veux rêver, rêve. Tu veux te croire séparé, crois-toi séparé. N'oublie pas d'en rire. Hein. Mais tout est OK. Pour Dieu, tout est OK. Y compris de croire qu'on est en dehors de Dieu. Donc moi, j'aurais bien aimé imaginer ce que c'est cette culpabilité. Et je vais même aller plus loin, parce que j'ai vu dans ma vie que... lorsque, par exemple, on me jugeait, et j'ai eu une belle petite rappel là ces derniers temps, ce que Gary Renard appelle un JFO, Just Another Forgiveness Opportunity, juste une autre occasion de pardonner, j'ai reçu un mail avec des jugements sur moi. Hein, et puis pendant un instant, je me suis dit... t'as vu la vie là, t'as vu, tu es titillé là par ce jugement. Il me donne des conseils sur comment être mieux, ou il me dit qui je suis. Et pendant un moment, un bref instant, d'abord je vois que je suis titillé, mais ensuite je vois que je crois que c'est vrai. Et pourquoi je suis blessé ? Seulement parce que je crois que c'est vrai. Et quand je ne crois pas que c'est vrai, quand je me rappelle qui je suis, on peut me dire tout ce qu'on veut, ça va ricocher, puisque je sais que je suis éternel, puissant, immortel, créateur. C'est pas parce qu'on me dit t'es moche ou t'es nul que c'est vrai. Et c'est là où je veux en venir avec la culpabilité. C'est parce qu'il y a de la culpabilité en moi que je réagis par la blessure. Parce que si je n'étais pas coupable, alors je rirais de ce jugement. Hein. Mais la bonne nouvelle pour moi, c'est que dans un premier temps, j'ai reçu ce mail. J'ai dit stop au mécanisme mental qui me dit tu plonges avec ces jugements-là. J'ai dit qu'est-ce qu'il me dit, hein, qu'est-ce qu'il me dit. D'abord, il me dit son opinion. Il ne dit pas qui je suis. Hein. Et ensuite, que je n'oublie pas qui il est, ce frère. Que je n'oublie pas qu'il est en train de jouer à ce jeu et que mon esprit et le sien, mon âme et la sienne, si on peut dire comme ça, ont choisi ce marché, ont passé ce marché de dire « Moi, je vais être celui qui va essayer de te faire réagir et de te faire plonger, et toi, tu vas être celui qui va recevoir ça. On va voir comment ça va se passer. » C'est un scénario. Et donc, À un moment, j'ai commencé à plonger, j'ai dit stop tout de suite, est-ce que je veux choisir ça, hein? C'est comme les pensées sont des propositions divines. Je peux choisir de plonger dans la culpabilité et d'être blessé, ou je peux choisir de dire que je n'oublie pas qui il est, ce frère, que je n'oublie pas sa lumière, et que je n'oublie pas qu'il est en train de jouer ce rôle de « à vie, tu vas voir, je vais essayer de te faire sortir de ta neutralité. Je vais essayer de que tu prennes cette chose au sérieux, ce jugement que je suis en train de te balancer là. » Et dès que j'ai dit que je n'oublie pas la lumière de qui il est, c'est fini. C'était fini. C'était fini parce que j'ai vu la splendeur de cet être-là qui jouait à un jeu qui me dit « Je vais essayer de te faire sortir de ta neutralité. » Et je suis revenu à la neutralité. Il y a eu un petit aller-retour. Mais qui a réagi et qui plonge à part ma personnalité? Évidemment. Mais quand je dis à vie « Tu es en train d'être un peu titillé », de qui je parle? De mon ego. Mais qui dit cette phrase? Eh bien, mon esprit. Puisque je ne peux pas observer celui qui est dans la peur, celui qui est dans la culpabilité, c'est trop agité, ça ne s'observe pas soi-même. Quand je dis ça, je parle au nom de l'esprit qui est en paix. C'est pour ça que ça a un effet immédiat pour moi. C'est la même chose que dire aide-moi, pur esprit, aide-moi, Saint-Esprit. Hein? À vie, tu es en train d'être titillé, je suis l'observateur de celui qui tente de plonger dans la culpabilité. Donc c'est magnifique. Hein? Donc dans un premier temps, j'aurais pu répondre par un jugement, je ne l'ai pas fait, j'ai fait stop. Hein? Le film se déroule, j'ai un magnétoscope, j'appuie sur la pause pour dire, attends, je vais réfléchir, je ne vais pas tout de suite attaquer parce que peut-être qu'une autre guidance va venir que celle d'attaquer. Attaquer, j'ai fait des milliers de fois dans ma vie, j'ai vu ce que ça donnait, et maintenant je choisis à vie tu attaques ou à vie tu attaques pas. Et je vois que ne pas attaquer tout de suite, c'est déjà beaucoup. Donc je n'attaque pas tout de suite. Et dès que je prends le temps de me poser en moi et de me dire à vie, tu étais un petit peu titillé par ce mail-là que tu as reçu, qui donnait des opinions sur toi, négatives, alors je peux m'identifier à celui qui parle. Hein, celui qui dit ça, il est en paix. Et je peux tout de suite me rappeler que celui qui m'a écrit ça, il est aussi lumineux que je suis lumineux. Et qu'il prend un rôle temporairement. Hein, et là, je peux retrouver le rire. Et arrêter de croire que ça s'est passé réellement. Le pardon au sens d'un cours en miracle, c'est exactement ça. C'est à tout ce dont j'ai oublié de rire, je peux maintenant dire avec joie, ça ne s'est pas passé vraiment. Je me rappelle qui je suis. Mais ça montre bien que je ne peux plonger qu'à l'endroit où il y a une culpabilité inconsciente qui dit... Je mérite ce jugement-là parce que j'ai fauté. Mais quand je regarde bien cette culpabilité, quand je réagis par la blessure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois que je suis hors de l'amour puisque je peux être blessé. Si je croyais que j'étais dans l'amour, bah je rirais tout le temps, quoi qu'on me dise. Mais si je crois que je suis hors de l'amour, c'est exactement la pensée de séparation. Et cette culpabilité, elle vient de là. C'est évident pour moi, c'est évident parce que je crois en fait qu'il y a énormément de blessures qui nous arrivent dans les vies, dans nos vies, qui sont liées à la sensation de manquer d'amour. Hein. Pourquoi j'attaque? Pourquoi Hitler a tué des millions de personnes? S'il était heureux et épanoui et plein d'amour, il n'aurait pas eu besoin de faire ça. Donc manque d'amour. Chaque fois que je réagis, où je signe une pétition, où je vais manifester, où chaque fois que je reste pas dans la neutralité ou même dans la joie, c'est que c'est relié à la sensation de manquer d'amour. Parce que si j'étais dans cet équilibre parfait de je suis complètement dans l'amour, il n'y aurait pas ça. Ça vient d'un déséquilibre. Hein. Et ce déséquilibre, c'est la séparation. Hein. C'est-à-dire que je crois à une chose qui ne s'est pas passée, et donc ça me met dans un déséquilibre, et ce déséquilibre, il a provoqué cette culpabilité de laquelle tout le reste provient. Moi, j'ai essayé de faire marche arrière sur toutes les manifestations de mon ego, et à chaque fois, j'ai trouvé cette phrase, je crois manquer d'amour. À chaque fois. C'est important, hein, ça. Si on peut avoir l'honnêteté en soi de dire pourquoi je vais dans la réactivité et pourquoi je ne reste pas tranquille, c'est ça. C'est je manque d'amour. Et je manque d'amour, ça veut dire j'aurais pas dû me séparer de Dieu. Ça parle de la culpabilité profonde. Et celle-là, elle a eu un effet cascade. Et elle a provoqué tous les conflits intérieurs que je peux vivre. Elle a provoqué toutes les blessures que je peux ressentir. Et dès que je peux rire de tout ce qui se passe, dès que je peux reconnaître que chaque événement est neutre, chaque événement, y compris ce mail, il est là pour me dire, Avi, tu choisis de plonger dans la souffrance et la séparation, ou tu choisis l'amour en regardant autrement cette situation. Voilà, c'est le rôle de la situation que de tester ça pour moi.
Justement, dans ma phrase, il y a étroitement lié, et il me semble que ça, il y a la connotation de la relation qui est très forte. La relation à soi, la relation à l'autre, et la relation, bon, ça c'est la partie humaine, et la relation au divin, à l'univers. C'est quelque chose qui se joue entre éternité et paix, qui est de l'ordre du divin, du cosmos, du grand. Et puis temps et guerre qui sont liés à l'humain, dans notre partie humaine, dans notre façon de voir. Et j'ai trouvé ça intéressant que tu ramènes à l'ici et maintenant, parce que c'est ça, dans notre part à nous, dans l'ici et maintenant, qui nous permet de faire la charnière entre cette partie humaine et de bien se regarder, de s'aimer, d'essayer de faire un travail. Et ça amène à la guérison, à l'auto-guérison. Hein. Donc cet amour qu'on peut avoir pour soi d'abord, et je crois que c'est nécessaire pour aller vers l'autre et comprendre l'autre.
Tout à fait.
Voilà comment je l'aperçois cette phrase.
J'allais dire aussi une chose par rapport aux pétitions, choses comme ça. Tu sais, comment on vit quand même à l'heure avec notre monde contemporain, dans l'écho, un ami l'a dit dans le courant miracle. Le réveil est aussi individuel, donc ça peut prendre encore quelques milliers d'années, quelques millions d'années en fait, hein, par rapport aux 6 milliards d'individus. Mais on vit dans un monde où donc, il y a effectivement des lois qui ont été créées pour protéger la personne physique en fait, hein, parce qu'on a besoin de notre corps pour vivre sur cette planète. Et quand il y a par exemple un danger pour telle situation, par exemple pour le monde des abeilles, pour peut-être le fait de participer à la pétition, c'est parce qu'il y a une image qui me vient, une phrase, l'âne tombe dans le puits, c'est le jour du sabbat, Jésus intervient quand même, il sauve l'âne, hein. Il ne le laisse pas mourir au fond du puits en fait. Quelqu'un appelle au secours dans la rue, c'est vrai que son karma fait que, entre guillemets karma, un enfant se fait battre dans la rue. Bon, il y a peut-être un réflexe, c'est sa conscience, son état d'esprit qui fait qu'il est battu par à cet instant précis. Il y a aussi un réflexe spontané de dire bon, je vais le défendre, ou quelqu'un qui est malade mourant sur son lit, le fait de laisser parler son cœur, de se laisser entraîner par le cœur pour aller vers cette personne et arrive par la présence, quelques paroles. Là, je parle juste par rapport à suivre son intuition, suivre son cœur. Hein, parce qu'on sait que chaque chose qui arrive à chacun d'entre nous et à nos frères et sœurs, c'est une attirance de sa part, quoi, en fait. Et en même temps, nous, en tant que témoins, spontanément, le cœur, des fois, va nous pousser vers lui pour dire j'interviens, je me sens attiré à être présent à ses côtés pour laisser passer justement cet amour qui vient spontanément vers lui pour peut-être, je ne veux pas le sauver, mais intervenir quoi, en fait. Ne pas laisser, disons, parce que je dis ça par rapport à ce que j'ai vu aussi en Inde où le karma fait qu'on laisse mourir les gens sur le trottoir et que voilà, enfin, c'est. Enfin, disons que chacun est. Voilà, que ce ne soit pas, disons, des castes qui se constituent, comme voilà, il y a la notion de caste et Gandhi ou même d'autres personnes éveillées, ils, justement, voulaient casser ce système de caste pour dire bah, écoutez votre cœur, si vous avez quelqu'un voilà, à vos côtés qui est en train de mourir, bah, écoutez votre cœur, quoi, en fait. Je mets un petit peu les choses comme ça. Voilà, comme elle me filme, mais voilà, c'est pour dire que nous, en tant que témoins de ce qui se passe autour de nous, nous pouvons agir tout en sachant qu'effectivement, chacun attire son, ce qu'il est en train de vivre, en fait. Mais que le cœur, voilà, c'est... Je parle comme ça par rapport à une petite peur qui fait que si on laisse faire parce que c'est lui qui l'a attiré, voilà, de, que ce ne soit pas l'ego qui est en train de réagir, mais voilà, de toujours laisser le cœur libre,
oui.
Libre de, voilà, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de soi. Quoi, en fait.
Mais le cours est très spécifique là-dessus.
Voilà. Oui,
et
oui,
il dit, et ça c'est très important, merci pour cette intervention, ça va nous permettre de clarifier quelque chose de fondamental. Le cours dit, ne confondez pas les niveaux. La séparation s'est produite en esprit. Et Dieu a placé la guérison là où l'idée de séparation s'est produite. C'est une idée folle, elle est impossible cette séparation. Donc la guérison se fait au niveau de l'esprit. Et Avi est guidé à commencer tous ces groupes par les cinq phrases qui sont à la page 30 du cours et la phrase du milieu, « Je n'ai pas à me soucier de quoi dire ou quoi faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. » Donc la question, ce n'est pas une question de faire, d'aller tirer l'âne du puits. En fait, ça n'a aucune importance. La question, c'est, dans l'instant présent, je lâche prise et j'écoute ma guidance. Et donc, un jour, je vais aller enlever l'âne du puits et le lendemain, non. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, je suis ma guidance, mais, et merci pour cette intervention, parce que ça nous titille. On dit, oui, mais quand même, les abeilles, ceci, cela, les gens qui meurent dans la rue à Bombay et ailleurs, effectivement, c'est moi qui crée ça. Les gens meurent à Bombay parce que je les vois mourir, parce que je crois à la mort. Les abeilles disparaissent parce que je crois au manque. La terre est en train de se polluer dans le golfe du Mexique parce que je crois à la pollution. Nous vivons nos croyances. Et je me suis incarné, je suis venu ici pour embrasser l'expérience humaine, pour embrasser le rêve de mes frères et sœurs, les 6 800 millions, mais embrasser le rêve ne veut pas dire rentrer dedans. Fondamental. Donc, c'est une question de niveau. Et tout s'est passé au niveau de l'esprit. Et c'est au niveau de l'esprit que ça se passe. C'est pour ça que le cours nous dit « Healing is of the mind », c'est-à-dire la guérison est de l'esprit. Et c'est là que ça se passe. Le pardon est de l'esprit. Mais même le cours nous dit que le pardon même lui-même est une illusion. La guérison aussi, puisqu'il n'y a rien à guérir, puisque nous sommes parfaits, nous sommes le divin. Donc c'est marrant, mais c'est vraiment ça. Et merci pour cette intervention parce que ça nous permet de resituer les choses au vrai niveau et au niveau où justement s'est produite l'imagination de la séparation. Et c'est en esprit. Après ça, l'action, savoir si je vais aller militer avec Greenpeace ou devenir boulanger ou aller effectivement donner de l'argent et aller à Bombay pour... peut-être oui, mais ça vient après. Ça vient comme, et cette phrase, « Je n'ai pas à me soucier de quoi dire ou quoi faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. » Et c'est ce qu'attend l'esprit. Parce que l'esprit est en train de me dire, vous savez, il y a un plan fantastique, et tout ce qui vous est demandé, c'est de dire oui au plan, et à ce moment-là, vous allez être guidé. L'un est policier, l'autre est faire super quoi, l'autre va à Bombay, l'autre troisième va je ne sais pas où, ou le quatrième ne fait rien, et tout est à sa place. Et tout devient une harmonie, une danse formidable. Et on va vers ça. Donc, on ne confond pas les niveaux. C'est toujours au niveau de l'esprit. Et la forme est neutre. Et c'est pour ça que toutes les formes sont neutres. C'est-à-dire que des morts dans les rues de Bombay ou la table sur laquelle nous sommes devant là, c'est neutre. Neutre, ça veut dire c'est ni bien ni mal. Ça ne veut pas dire... Il ne s'agit pas de cautionner quoi que ce soit. On ne cautionne pas les guerres. On ne cautionne rien du tout. Il n'y a rien à cautionner. Il y a à aimer, c'est-à-dire accueillir. Comme fait Dieu, comme fait la vie. Parce qu'après tout, qu'est-ce que fait la vie? Les gens disent, bien sûr, « Ah, mais si Dieu existait, il ne permettrait pas les guerres, il ne permettrait pas les famines, les viols, etc. » Mais justement, Dieu est tellement Dieu, et il y a tellement que Dieu, que les viols, les famines, etc., tout ça peut être imaginé. La souffrance est imaginée, la mort est imaginée, etc. Et c'est vécu comme apparemment réel. Ça ne l'est pas. Mais nous sommes forts, parce que Dieu est infiniment puissant. Donc, il joue avec lui-même, la vie, la source joue avec elle-même. Et donc, s'imagine, joue en disant, c'est drôle. C'est pour ça que, tout à l'heure, Avi nous rappelait, tout a commencé quand le Fils, l'expression du Père, l'expression de la source, a oublié de rire à la pensée de séparation. Parce qu'il n'y a pas de séparation. Et ce que nous sommes venus faire ici, et ce dont nous parlons, et ce dont nous prenons conscience de plus en plus, c'est que ça ne concerne que nous, et que je choisis, d'accord, je choisis la vérité, et donc c'est ça que je choisis avant tout. Et le reste, savoir l'action, tel parti politique, telle action, comment je dépense mon argent entre guillemets, parce que la propriété privée qui est inventée, etc. Mais ça ne fait rien, je joue le jeu. Les banques, etc., tous les systèmes géopolitiques, etc., très bien, je joue le jeu. Toutes les langues, toutes les barrières, les frontières, les policiers, tout ça, très bien. J'accueille, j'aime, c'est-à-dire j'embrasse. J'embrasse tout et j'y vais comme un enfant, confiant. Et c'est pour ça que Jésus disait « redevenez comme des enfants », et pour que lui d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans le cours en miracle, il donne une phrase que j'aime beaucoup citer, qui m'aide moi, qui m'aide concrètement dans les situations concrètes de la vie. Si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le cours nous dit dans le texte, ça veut dire, à moins que vous ne reconnaissiez votre complète dépendance de Dieu. Alors, on ne peut pas entendre ça parce qu'on dépend de Dieu. Mais Dieu, c'est un amour infini, c'est tout ce qui est. C'est la merveille des merveilles, c'est le bien sans opposé. C'est l'harmonie incroyable, c'est bon, la liberté infinie, c'est ce qui est éternel, immuable. À moins que vous ne reconnaissiez votre complète dépendance envers Dieu, vous ne pouvez connaître le véritable pouvoir du Fils dans sa vraie relation avec le Père. C'est la façon dont Jésus a de parler dans le cours en miracle. Mais la relation, justement, entre la source et moi, c'est pour ça que nous sommes un. C'est pour ça que Jésus disait, c'est connu, c'est dans les évangiles canoniques, le Père et moi sommes un. Il n'arrête pas de citer. Mais il disait aussi, de moi-même, je ne fais rien. C'est le Père en moi qui fait les œuvres. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Et on voit bien que ce n'est qu'un jeu de langage pour parler de quelque chose qui est bien au-delà des mots. C'est qui nous sommes. Et donc, et pourquoi est-ce que Jésus employait ce terme Père, Fils, Esprit? C'est parce que, quelque part, d'une manière intuitive, profonde, il était guidé à faire passer le message, qui a été d'ailleurs très peu compris à l'époque, qui commence à être davantage compris maintenant, le message que nous pouvons imaginer avec notre divinité, n'importe quoi, mais on ne peut pas décréer ce qui est. Dieu ne peut pas ne pas être Dieu, et nous ne pouvons pas ne pas être qui nous sommes. C'est pour ça que le cours en miracle dit, c'est un cours en cause. Et on s'occupe toujours de la cause. Et la cause, on va toujours à la racine, en amont. Et en amont, c'est toujours ce qui s'est passé en esprit. C'est toujours une question d'esprit. Et donc, dans les situations concrètes de la vie, et merci pour ton intervention, parce qu'effectivement, on est confronté, moi comme les autres, on accueille le corps physique, l'argent, les relations, le lieu de vie, le corps qui semble vieillir, tout ça c'est accueilli, bien sûr. On regarde ça en face, mais je le replace à son vrai niveau. Et effectivement, nos pensées sont des propositions divines, et je vois ce qu'on m'a appris, je vois ce que disent les médias, ce que disent les enseignants, etc., partout, et je choisis. Les statistiques montrent que fumer tue. Je fume, qu'est-ce que je fais? Je sens que je ne sais pas ce que je fais, mais je voudrais m'aimer en fumant. Je constate que j'ai un certain âge, ou on me dit qu'on a un certain âge, c'est marqué sur ma carte d'identité, je suis né telle date, bon, c'est le corps physique. Je constate ça. Et puis, il y a vieillissement. Qu'est-ce que je choisis? Non. Non. Ce que je suis ne vieillit pas. Ce que je suis est éternel. Mais c'est mon affaire. C'est dans le secret de mon cœur. Et je n'ai pas besoin d'aller le partager à l'extérieur. C'est pour ça que le cours dit très clairement combien il en faut pour sauver le monde. La réponse, c'est un seul. Un seul suffit. Et Jésus dit, moi j'ai fait ça. C'est-à-dire que c'était mon rôle. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur que vous. Mais j'ai vaincu le monde. C'est ce qu'il voulait dire. C'est des mots, bien sûr. Et alors, voilà. Si vous voulez, bien, faites de même, c'est-à-dire, en fait, écoutez l'esprit en vous, retrouvez qui vous êtes vraiment. Et les autres, c'est très bien, servez-vous-en parce que vos relations sont l'outil le plus puissant que vous avez. Mais attention. Et déjà à l'époque, il disait quelque chose qui n'a pas été compris, et pourtant c'est dans les évangiles canoniques, il disait, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne peut pas venir. Le consolateur, c'est votre maître intérieur, c'est votre découverte de qui vous êtes, mais vous êtes temporairement attiré par le personnage Jésus, et vous avez l'impression que je vous sauve. Mais je ne peux pas vous sauver, parce que vous êtes déjà sauvé. Bon, mon message, c'est pas « je viens vous sauver ». Alors bien sûr, on parle d'être le sauveur du monde, c'est vrai, mais ça veut dire « je suis le sauveur du monde parce que je suis, moi, j'ai retrouvé qui je suis ». Et à ce moment-là, à travers moi, on peut dire que j'exprime la lumière du monde, c'est tout. Et c'est en ce sens que, c'est en ce sens, mais je ne sauve personne, il n'y a personne à sauver. Ça, c'est fondamental. Et donc, Jésus disait, effectivement, « si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne peut pas venir », parce que quelque part, ça veut dire « vous êtes attiré par ma personne, vous avez l'impression que je vous sauve ». Et effectivement, ça a été bien le cas, et le jour où justement il y a eu cette crucifixion, et ça a été épouvantable pour beaucoup, il y a eu une très profonde tristesse, parce qu'il y avait un tel impact énergétique, c'était pas pour tout le monde, parce qu'il était considéré comme le mauvais rabbi par tout l'establishment à l'époque, mais les gens qui étaient proches, qui sentaient par le cœur, qui étaient attirés, avaient un lien extrêmement fort, individuel, c'est vrai, différent pour chacun. Et ça n'a pas été facile. C'est pour ça qu'il disait ça. Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne peut pas venir. Et après sa crucifixion, ceux qui le suivaient ont été guidés. Attendez, ne bougez pas, justement, l'Esprit va venir. Et l'Esprit, qu'est-ce que c'était? C'était finalement comme une révélation intérieure au plus profond de même, ce qui s'est traduit par parler en langue, etc., sortir, la fête. Bon, ça a changé. Et d'ailleurs, nous connaissons très bien ça, parce que certains, nous savons tous qu'à des moments, nous avons comme des prises de conscience incroyables, on se sent une paix fabuleuse, et puis trois jours après, on est au fond du trou, on dit « attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a trois jours, j'étais dans un état merveilleux, et voilà, aujourd'hui, je suis dans un état épouvantable. » Bon, ça se fait beaucoup, ça, et la réponse, c'est de dire « oui, c'est fait exprès. C'est fait exprès par l'esprit d'amour. » Alors, il faut une sacrée confiance pour tout ça. Eh bien oui. Et dans le courant miracle, dans le manuel pour les enseignants, au petit chapitre, sous-chapitre 4, dans ce manuel, en disant, la première des caractéristiques des enseignants de Dieu, c'est la confiance. Et de cette caractéristique, il ne dit pas qualité, hein, c'est le mot caractéristique, eh bien de là, tout le reste découle. La générosité, la bienveillance, la douceur, mais en premier, la confiance. Et effectivement, si on parle tant de confiance, c'est parce que ce n'est pas évident. Dans un monde où tout est fait pour prouver que la séparation est réelle, tu dis non, ça n'existe pas. C'est pas évident. Et pourtant, on nous dit, mais pourquoi est-ce que justement on peut avoir confiance comme ça? À cause de qui nous sommes. C'est pour ça qu'il y a un paradoxe, parce que quand on regarde le fonctionnement de l'ego, on dit, on est foutu. On va tous, ce monde va effectivement à la mort, ce qui est vrai. Le monde de l'ego est un monde mortel, c'est un monde qui invente la mort, qui va vers la mort. Il veut la mort, l'ego. Et en même temps, on se met à avoir un optimisme débordant, on trouve ça extraordinaire, parce que c'est ce qui est réel en nous, la vérité qui sort. Et à ce moment-là, ça devient mais une bonne rigolade, une bonne blague, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être en compassion avec tous les frères et sœurs qui viennent me dire, bah, écoutez, attends, j'ai besoin de te voir, moi je suis dans telle situation épouvantable, etc. Ok, je te comprends, ça va. Mais quelque part, on ne rentre pas dans le rêve. Et le cours a une image que j'aime beaucoup citer, et que j'aime beaucoup, et dont on le sait, on se sert tous, c'est comme un enfant, et on sait, ça nous parle, un petit enfant est là dans son lit, à côté de nous, il fait un cauchemar. Alors il transpire, il est mal, il pleure, etc., il n'est pas bien. Nous, on est à côté, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas lui faire un cours. On écoute, on va chercher un peu d'eau, on lui met sur le front, on le câline. Et on lui dit tout va bien mon chéri, on le prend dans les bras, etc. Hein? On est en attitude d'amour, d'écoute, de présence. Et bien c'est exactement ce qu'on est appelé à faire avec tous nos frères et sœurs. Évidemment, alors on va dire comment? Je n'ai pas à me soucier de quoi dire ou quoi faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Et donc à ce moment-là, c'est au niveau de l'esprit, c'est au niveau de mon choix que ça se passe, et après, l'action va suivre. C'est pour ça que j'aime beaucoup dire, et donc je ne suis pas le seul, que qu'est-ce que c'est que justement cet accueil? C'est le féminin. Donc je place le féminin au centre de ma vie, c'est-à-dire l'accueil de l'amour, la sagesse, et ensuite l'action masculine, tout ça c'est des symboles, bien sûr. Eh bien, ça concerne les hommes comme les femmes, exactement pareil. L'action masculine va suivre après. Mais le féminin est central. Et c'est ça notre rôle ici, c'est justement de recevoir pour donner. C'est ça. Et d'ailleurs, quand on naît, quand on sort du ventre de la mère, on commence par inspirer. On reçoit le souffle. Et ensuite, on l'expire. C'est un beau symbole. Beau symbole.
En fait, quand tu as reçu le mail, ça t'a laissé le temps de l'inspirer. Parce que quand on reçoit des choses conflictuelles en direct, c'est pas toujours évident de pouvoir répondre par du conflictuel. Hein. Et, le temps est là toujours pour nous permettre de choisir un nouveau.
Oui.
Changer. Un outil, le temps qui permet ça. Changer de choix, changer de niveau, changer de tout.
Moi, je compare mon ego, ma personnalité, à un molosse que je tiens en laisse. Hein. Il est en laisse, donc il est là à mon service. Il est là pour me protéger. Et en même temps, parfois, je peux lui dire coucher l'ego au pied parce qu'il est à mon service et parce que je l'observe, alors je ne suis pas le molosse, hein. Parfois j'oublie que je ne suis pas le molosse et je me prends pour le molosse et je commence à attaquer, à agresser, à demander réparation, à avoir justice. En effet, quand je reçois un mail, ça me laisse le temps, mais j'aurais pu agir impulsivement, à renvoyer tout de suite un mail d'attaque. Mais c'est vrai que lorsque la situation est immédiate, lorsque la supposée agression semble arriver à ce moment-là, je peux lâcher le molosse en disant « attaque ». Mais moi j'observe, hein, quand j'observe les premières manifestations du titillement, de la colère, de la jalousie, je commence à voir que ces manifestations, c'est pas moi, c'est la personnalité qui les vit. Ça m'aide beaucoup. Mais ce que tu dis est très juste, hein. C'est-à-dire qu'il y a besoin de s'entraîner. Il y a besoin de s'entraîner. J'ai réagi un certain nombre de fois dans ma vie impulsivement. J'ai vu que ça m'avait entraîné dans plus de situations, dans plus de... En fait, quand je suis en colère, c'est à moi que je fais du mal. Quand je suis dans la haine, c'est à moi que je fais du mal. Quand je suis dans l'attaque, c'est aussi à moi que j'attaque. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, oulala, Avi, t'as envie de continuer à te faire tout ça ou t'as envie d'être en paix? La réponse est évidente. J'ai envie d'être en paix. Donc, pour être en paix, y a une partie de moi qui est en paix tout le temps. Hein. Cette partie où je sois sur la planète ou même ailleurs, je l'ai avec moi. Hein. Laurent-Élie Lévy citait un enseignement qui disait « Tu es assis sur le trésor que tu recherches. » Il n'y a pas ailleurs, hein, que en moi, qu'il y a cet esprit pur là. Cet esprit, il est en paix. Maintenant, est-ce que je lui donne le micro pour interpréter la situation? Ou est-ce que je donne le micro à l'ego, au molosse, pour attaquer? Donc, quand je suis allé dans la réactivité et que je n'ai pas choisi la paix, comme dit Christine à l'instant, le temps est là pour me permettre de rechoisir. C'est-à-dire que je peux observer comment j'ai agi, je peux dire intérieurement qu'aurait fait l'amour à ma place, voilà, et puis rechoisir. Puisqu'il n'y a pas de temps, Hein, je peux rechoisir autre chose et pardonner la situation. Ça a été une occasion pour moi de voir différemment cette situation. Et si je ne l'ai pas fait sur le moment, ben je le fais après. Ça peut même se faire 10 ans après, 30 ans après, avec une personne décédée. Je me dis, qu'est-ce qu'aurait fait l'amour à ma place ? Voilà, et je rechoisis. Mais quand je fais ça, je m'entraîne. La vie, c'est comme une salle de sport où je muscle cette conscience-là de choisir l'amour en toute situation. Mais ça vient, ça peut venir petit à petit. Et la première des qualités que moi j'ai trouvées pour le faire, c'est d'observer sans réagir, hein, pendant se donner le temps de l'observation. Moi j'ai vécu une chose que j'ai citée un nombre incalculable de fois avec ma voisine qui est venue pendant 10 minutes, et là c'était en direct, qui est venue m'incendier parce que j'avais fait une petite chose qui pour elle était une grande chose. Donc ça ne lui a pas du tout plu, et puis 10 minutes de jugement incroyable, j'ai fait le choix de me taire. J'ai fait le choix de ne pas verser d'huile sur le feu. Bien sûr, j'étais amené à faire ce choix parce que dans ma vie, j'ai progressivement pris du recul avec ce qui m'arrivait. Hein, ça ne s'est pas passé d'un seul coup. Et bien, pendant qu'elle parlait, j'envoyais des « je t'aime » en pensée. Je me mettais à sa place, comme disait Sylvain. C'est parce que j'ai vécu le jugement et j'ai vu ce que ça faisait que je peux maintenant me mettre à la place de celle qui me juge et ne pas la prendre au sérieux. Qu'est-ce qu'elle me dit quand elle me juge ? Elle me dit « aime-moi ». C'est un appel à l'amour, le jugement. C'est « je ne me sens pas assez aimé, donc je t'agresse pour te dire « aime-moi », mais je le fais d'une manière maladroite. » Donc « aime-moi », moi je l'ai entendu. À ce moment-là, elle était complètement agitée et puis moi j'étais en train d'écouter tranquillement. Et ça passait à côté, ça rentrait pas dans le cœur. Donc, j'entendais « aime-moi, je souffre, tu vois que je souffre parce que tu vois comment je t'agresse. Tu le vois ? Oui, je le vois. » Et là, j'ai commencé à avoir de la compassion pour cette femme et puis à pas me confondre avec son opinion sur moi. Et au bout de 10 minutes, comme je réagissais pas, elle a épuisé tout ce qu'elle avait à dire, elle est repartie. Et moi, je suis revenu chez moi, là. Je me suis écroulé de rire sur le canapé. Je n'ai pas oublié de rire de la situation. Pourquoi je me suis écroulé de rire ? Parce que c'était la première fois de ma vie que je n'entrais pas dans la réactivité et que je pouvais voir les bienfaits de choisir la paix au lieu de rentrer dans... J'ai le choix. Et donc cette situation, c'est important de me rappeler qu'elle est neutre. Que ce n'est pas la situation de la voisine qui me parle comme ça qui est difficile. C'est le regard que j'ai sur la situation. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai le choix du regard. Je peux choisir la paix dans mon regard, je peux choisir la guerre dans mon regard. Donc, je m'entraîne, on me dit une chose désagréable, bon, ben, c'est son opinion, voilà. C'est un être qui souffre, est-ce que je peux le prendre dans mes bras, même virtuellement, même en pensée. Chaque petite chose qui me fait réagir, alors qui réagit ? C'est l'ego, bien sûr, c'est la personnalité. Mais je peux être guidé à faire des choses qui ne sont pas de l'ordre de la personnalité, qui sont, comme tu disais, dans le cœur. Hein. Et comment je réagis à partir du cœur ? En laissant le molosse bien tranquille couché à mes pieds, et puis en laissant l'esprit parler dans le silence qui vient de cette pause, l'esprit auquel je suis connecté en permanence peut s'exprimer. C'est moi qui m'exprime. Mais dans le tumulte, je n'entends pas, c'est une voix discrète. Donc j'ai besoin du silence pour savoir quoi dire ou quoi faire. Ce soir, par exemple, voilà, je parle quand je suis guidé à parler, tout d'un coup il y a une pensée qui vient, je me dis « ah ouais, super, j'ai envie de parler de ça ». Ça vient du... c'est pas un plan, c'est pas une stratégie. Il y a un poète soufi qui disait une très belle chose, hein, très similaire à ça. « Je suis un roseau creux à travers lequel Dieu joue sa musique en moi ». Voilà. Est-ce que je laisse jouer la musique de Dieu ou est-ce que je laisse le molosse aboyer ? J'ai le choix, mais qu'est-ce qui est bon pour moi ? Et bien maintenant je sais, moi je sais, c'est de choisir la paix. Parce que ça amène des choses dans ma vie concrètes qui sont ce que je veux vraiment. Et ce que je veux vraiment, ça devient de plus en plus clair, je veux me réveiller à qui je suis. Et tout ce que je dis ou tout ce que je fais, je vais mettre ma volonté pour ça, pour ce but-là, ce seul but-là. Et merci à la voisine, et merci à ce correspondant par email, et merci à ces soirées de me permettre de choisir l'amour. Parce que c'est des occasions bénies, y compris les choses qui sont délicates, mais difficiles. Ça peut devenir neutre, hein, une chose difficile. Quand je dis stop, hein, stop à cette sensation d'être victime. Je suis un être puissant, éternel, créateur, j'ai créé tout ça. Ce que dit cette personne ne change pas une virgule de l'être de lumière que je suis. Mais j'ai besoin d'avoir confiance. Hein, c'est la foi. Hein, Henri Gougaud disait, la confiance, c'est la certitude que rien n'est sûr, mais que tout va bien se passer. Voilà, je peux essayer de laisser une chance à cette phrase des vrais, en disant, je ne sais pas, je laisse les choses se faire, j'écoute le cœur, hein, mais il y a besoin de choisir un petit peu de s'arrêter, sortir un peu du tumulte. Sinon, c'est inaudible comme voix.
À de nombreuses reprises, dans des situations professionnelles très conflictuelles, donc j'ai effectivement... J'ai fait le choix de ne pas répondre à l'agression. Je me suis vraiment détendu, relaxé. Et des réponses percutantes sont apparues naturellement, spontanément. Qui ont vraiment la personne de. Comment dire. Qui verbalement m'agressait, ça s'est inversé. Sans que j'aie eu à dire de mots blessants, j'ai agi intuitivement, j'ai le moment, c'est sorti tout seul. La réponse, percutante, mais pas méchante. La situation s'est inversée à plusieurs reprises. Mais c'est parce que je me suis détendu. Parce que justement, j'ai pas voulu. Enfin, j'ai senti que ça allait monter, donc surtout pas. Vraiment faire l'effort de se relaxer. Et des réponses, je pensais pas pouvoir faire une réponse aussi percutante. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. En plus, quand on travaille sur des plateaux, ça rigole pas. Quoi. Quand il y a un offre comme ça qui apparaît, c'est...
Il y a une leçon du cours, c'est juste un petit aparté, qui dit « N'enseigne que la paix parce que c'est ce que tu es ». Quand je choisis la paix en face d'une personne agressive, alors cette paix, elle rayonne. Je n'ai pas besoin de dire un seul mot. Parce que je suis la paix. Combien de temps je peux agresser une personne qui est en paix? Je me fatigue. Je me dis, bah, ça n'a aucun effet, d'abord. Et puis ensuite, oh, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir quelqu'un en paix. Donc, c'est ça que j'ai à faire. C'est à choisir la paix en toutes circonstances. Et les circonstances où je n'ai pas choisi la paix sont aussi utiles que celles où j'ai choisi la paix. Parce qu'elles m'enseignent que c'est ce que je ne veux pas. Et quand je sais ce que je ne veux pas, je peux choisir ce que je veux. Il n'y a pas à juger les moments où j'étais dans l'agressivité, les moments où je choisis la haine, parce que ça m'a beaucoup aidé à rechoisir des choses qui m'aident. Donc tout est béni, hein, ces expériences qui sont là pour nous aider à choisir l'amour en toute situation. Hein, tout est neutre. C'est important de se rappeler qu'il n'y a pas une seule situation qui ne soit pas neutre. Il n'y a que mon regard qui va... Et comme disait Sylvain, c'est au niveau de l'esprit. Le regard, c'est l'esprit. Hein, est-ce que je regarde cette situation comme victime bourreau ou est-ce que je vois que c'est une situation d'évolution qui m'aide à grandir, hein, parce que je vais choisir à nouveau autre chose, quelque chose de plus élevé, quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui est lumineux. Hein, que je n'oublie pas qui tu es, cher frère, qui me juge, hein, qui semble me juger. Que je ne l'oublie pas. Et là, voilà, le pardon, c'est ce miracle-là. C'est ce changement de vision.
J'ajouterais, ces expériences-là amènent la confiance. Parce que justement, quand on est dans une situation comme ça, on n'a pas peur. Comme on n'a pas peur, on reste 100% présent. On est justement par rapport à quelqu'un qui s'énerve, l'efficacité, enfin, le potentiel, plus la personne pète les plombs, plus son potentiel est bas. Mmh. Donc, quand on reste comme ça à 100%, et ben, finalement, on se sent toujours pas trop mal, voire bien, selon les circonstances. Et l'intuition est fabuleuse des fois. Hein,
j'ai comme il n'y a pas de hasard, l'attaque aussi, c'est par rapport aux émotions. Il y a des émotions en nous qui peuvent être mises de côté pendant très longtemps, et le fait d'avoir un prétexte comme ça qui vient réveiller cette émotion. Est-ce que l'émotion justement ressort, mais en douceur, on va dire, dans cette situation, il y a un choix qui est fait de prendre le recul, d'être, comment dire, à l'écoute de l'esprit. Et que se passe-t-il justement avec l'émotion qui aurait pu être là, parce que l'autre est parfois un miroir, enfin c'est pas parfois, il est tout le temps un miroir de ce qu'il y a en nous en fait. Pourquoi quelqu'un vient frapper à la porte, à une de nos facettes, en colère, est-ce que c'est pas pour réveiller une colère qui était là, et que fait-on de l'émotion en fait, qui pourrait être encore attachée à soi quoi, en fait.
L'émotion, elle est là.
Hein. Elle est là, l'émotion.
Mais elle ne prend pas là. Complètement la main.
Oui.
L'émotion est là, mais on a toujours le regard dessus. On l'observe, on la voit. On la voit tourner. On voit ce qui se passe là-dedans. Là, ça tourne. Là.
Voilà.
On voit que ça tourne. Ouais. Et le fait simplement d'observer, ça fait que on pète pas les ponts. C'est-à-dire qu'on passe sous le contrôle de l'émotion. On ne passe pas sous le contrôle de l'émotion.
Voilà. Pas submergé.
Il y a un moment, il y a un point de bascule. Et le fait de l'observer, elle est là, c'est très désagréable, ouais. Mais on ne la cache pas, mais bon, ça s'amortit. Mais elle est là quand même. Quand quelqu'un appuie sur le bouton, notamment dans des situations professionnelles, ouais. C'est plus difficile parce qu'il y a des enjeux financiers, toujours on attaque la personne sur son professionnel, sur des choses. Là, c'est souvent plus dur que dans la vie privée. Quoi. Et là, ça. Ça démarre.
L'émotion, c'est l'expression d'une guerre en moi, c'est un conflit en moi. C'est l'expression d'une partie de moi qui a besoin d'être pacifiée. Et l'autre me sert énormément à ça, hein, puisqu'il me dit, il appuie sur le bouton exactement qu'il me fait réagir. Donc quand la guerre bat son plein, je vais aller dans la guerre parce qu'il n'y a que ça. Quand je commence à faire ce que Dieu fait, c'est-à-dire accueillir l'émotion, je ne suis pas en train de m'opposer à l'émotion. Quand je m'oppose à l'émotion, je fais la guerre à la guerre. Hein, donc ça augmente la guerre. Donc quand j'accueille l'émotion en disant « Oui, Avi, là, tu es titillé. Oui, là, tu te sens blessé. » Donc je dis « Ok » à l'émotion. Mais qui dit « Ok » à l'émotion et avec quel sentiment je m'adresse à l'émotion? Avec la paix. Hein, puisque je l'observe tranquillement. Ça peut être progressif, hein, bien sûr, mais quand j'accueille l'émotion, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus moi en paix en opposition à moi en guerre, il n'y a que la paix. Hein. L'émotion est incluse dans l'expérience, et donc comme je la regarde en paix, comme disait Alain, je peux communiquer cette paix à cette émotion, c'est-à-dire c'est les eaux du lac qui sont rivées hein, par le vent. Voilà. Et je peux laisser l'eau se calmer, se pacifier, parce que je regarde cette paix, je regarde cette émotion avec ma paix. Donc, le mot-clé, c'est accueillir. Parfois, c'est pas possible. Hein. Je ne suis pas en train de dire que... Et c'est ça le processus d'évolution pour moi, c'est mettre de plus en plus de paix à l'endroit où il y avait des conflits, hein, en commençant à observer que ce qui s'agite, ce n'est pas moi, c'est ce qui se prend pour moi. Et là, il y a cette distanciation entre Saint-Esprit et personnalité, celui qui est témoin et celui qui est observé. Et quand j'observe l'ego, j'arrête de m'identifier au corps, j'arrête de m'identifier aux émotions, j'arrête de m'identifier à l'ego, et bien sûr je rayonne la paix puisque je l'observe, j'observe depuis la paix. Eckhart Tolle a dit quelque chose de très important juste avant de s'éveiller, hein, un éveil relatif, il est encore sur terre, mais avant de devenir le maître spirituel que nous connaissons. Et il était clochard, il a failli se suicider. Il a été au bout, et puis il a dit cette phrase qui a tout fait basculer, il a dit « J'en peux plus de vivre avec ce soi ». et il a compris qu'ils étaient deux. Et quand il a compris ça, il a compris qu'il pouvait observer ce soi-là, ce soi négatif, ce soi personnel, et qu'il n'était pas celui-là. Ce soir-là, il a dormi comme un bébé, et le lendemain, le monde entier était différent pour lui. Et il a commencé à enseigner. Donc ça a basculé en dissociant l'ego de qui je suis vraiment. Et ça, c'est une étape réellement importante. Tant que je suis confondu avec le molosse, je ne pourrai faire qu'agresser, puisque le molosse, c'est son rôle. Hein, c'est de défendre, d'attaquer.
Alors moi, juste pour aller dans le même sens, je me suis vu en train de me regarder sur une scène où j'étais avec des clients qui critiquaient. Et normalement, j'aurais dû démarrer. Et ça m'a amusé. Je me suis vu et je me disais, c'est bien. D'habitude, tu t'aurais pris,
la mouche
tout de suite et tu serais monté au créneau. Et en fait, comme mon ego est très tordu, finalement, après, ça m'amusait. Et je la regardais, je me suis mis à critiquer. Mais de derrière. Moi, j'ai dit, oh là là, c'est... je sais pas si vous me suivez. Hein. Je commence à voir que c'est amusant, que je rentre pas dans le truc. Et puis finalement, je suis quand même en train de dire, elles se rend pas compte, mais qu'est-ce qu'elle balance comme connerie, même si elle se rend pas compte. Après, je me suis dit, quand même, bon, il y a encore du travail, quoi.
Mais non, c'était une bonne partie, c'était probablement la bonne réponse.
Une observation.
Mais ça, observation. Ça m'amusait, mais à un moment, je dis, c'est fou ce qu'on a l'air ridicule quand on prend du recul et qu'on s'aperçoit de la self-choice. Si on s'écoutait, on dirait moins de conneries. Parce que si on se rendait compte, si on prenait conscience, c'est. J'ai commencé à désamorcer comme ça. Je suis pas rentré dans la scène et j'ai pas du tout mis de l'eau sur le feu. Je me suis juste un peu reproché d'avoir un peu. Je m'étais un peu moqué. Voilà.
C'est-à-dire voir que rien n'a de valeur, c'est fondamental et ça aide énormément. Que par exemple, quand on partage ce que tu viens de faire, tu dis finalement, j'aurais dit moins de conneries, etc. Ou elle aurait dit moins de conneries. Mais ça n'existe pas, la connerie. Si les choses n'ont pas de valeur, si c'est ni bien ni mal, il n'y a pas de conneries. Et c'est le monde de l'ego, ça. Il n'y a pas de schizophrène. Il n'y a pas de fou. Il n'y a pas d'intelligence de bête, ça n'existe pas. C'est inventé, c'est simplement des jugements de l'ego. Vraiment, vraiment. On vit avec ça, on a l'impression que ça existe. Puis toute la société fonctionne avec ça. Et c'est totalement illusoire. Et le voir, ça change tout.
Oui.
On parle des émotions, et les émotions, en fait, sont notre système de guidance. C'est notre système de comme un avion qui a son système de pilotage automatique et qui est sans cesse en réajustement de trajectoire. Alors, les émotions, le cours nous dit vous avez deux émotions. L'une qui vous a été donnée et l'autre que vous avez fabriquée. Et alors l'autre émotion qu'on a fabriquée, c'est la peur. Et de là viennent toutes les émotions, tout notre monde émotionnel. Mais il est fondamental de l'observer parce que ça fait partie justement du jeu qu'on a choisi de jouer. Et ces émotions-là, c'est un moteur de prise de conscience. Et donc, c'est pour ça qu'on dit surtout regardez vos émotions, les cachez pas. C'est ce qu'on commence à comprendre de plus en plus, avec au début des thérapies, des choses comme ça, puis peu à peu, un travail sur soi-même permanent, en disant, tiens, là, je suis en colère, tiens, là, je suis agacé. Et puis ça devient drôle, ça devient amusant. Tiens, là, je suis pigé par l'ego.
etc. Donc mes émotions m'enseignent, me montrent mon fonctionnement, et c'est le fait de l'observer, c'est-à-dire de l'accepter. Parce que observer, c'est accepter, c'est la même chose. Et qu'est-ce que fait le divin? Il accepte. Et on aime beaucoup citer cette fameuse, dans la leçon 135 du cours, c'est un des rares numéros que je connaisse, mais cette leçon qui dit, le titre, si je me défends, je suis attaqué. C'est quand même fort, hein. Si je me défends, je suis attaqué. Et dans cette leçon 135, qui est très longue d'ailleurs, qui fait au moins 4 pages, eh bien, vers les 3 quarts de la leçon, il y a la phrase suivante. Que ne pourriez-vous accepter si seulement vous saviez que tout événement, passé, présent et futur, tout ce qui arrive, est planifié avec douceur par l'un, par l'esprit un, dont le seul but est votre bien. Que ne pourriez-vous accepter? Alors on dit oui, mais le 11 septembre 2001, là, les tours de Manhattan, et puis la guerre de machin, et puis l'assassinat, et les viols, etc. Et on me dit, que ne pourrais-je accepter si seulement je savais que tout événement, passé, présent et futur, est planifié avec bienveillance par l'un dont le seul but est mon bien. Donc c'est quand même pas évident de comprendre ça, parce que quelque part, on va essayer d'ailleurs de regarder ça ensemble. C'est, que ça veut dire? Parce que l'esprit, c'est qui? C'est moi l'esprit, puisqu'il n'y a que l'esprit. Et en même temps, l'esprit joue avec lui-même et autorise, on peut dire entre guillemets, le libre arbitre et finalement l'imagination de ce que je veux. Donc mes peurs. Je me crois séparé, donc automatiquement je vais attaquer, je me défends et j'ai peur. Et l'esprit respecte ça. Mais l'esprit, c'est moi. Donc effectivement, il y a deux parties. Il y a l'esprit qui est la paix, et c'est un petit peu ce que a dit partagé avec Eckhart Tolle, son expérience. Tout d'un coup, il a vu ça. Il a vu qu'il y avait quelque chose d'imaginé, et puis il y avait l'autre partie. Et il l'a vu, c'est-à-dire, ça a été une révélation. Et c'est pour ça que d'ailleurs que le cours parle de révélation. Alors on va dire, bah oui. Alors on peut dire, mais Eckhart Tolle a de la chance, parce que lui, il a eu cette révélation, mais moi je ne l'ai pas. Alors, oui, mais, d'accord, cette pensée-là, elle vient. Mais rappelons-nous ce que c'est que cette révélation. Ce n'est pas la révélation de quelque chose d'extérieur, d'un Dieu qui va me sauver, c'est la révélation de qui je suis vraiment. Je le suis déjà. Donc quand je commence à comprendre ça, même intellectuellement, je dis, mais ça va, tout va bien, puisque je suis déjà ce que je cherche. C'est bon. Donc je me mets à rire. Alors très bien, Eckhart Tolle, très bien, j'ai lu très bien les maîtres, très bien, les maîtres ascensionnés, tout ça, parfait, excellent, ça joue un rôle. Mais en attendant, moi, je suis en train de pêcher mes patates dans ma cuisine pour préparer ma soupe. Hein, et qu'est-ce que je fais avec ça? Mais je me réjouis, je rigole, parce que je sais que je ne suis pas le corps, même intellectuellement. Et peu à peu, mon esprit est entraîné à rechoisir, comme disait tout à l'heure Avi, à chaque situation, rechoisir ce que je veux voir. Pas ce que je vois, ce que je veux voir. C'est pour ça que ce qu'on a à faire, c'est avoir une intention claire. C'est ce que le cours appelle la bonne volonté. Et c'est-à-dire, ça devient permanent. C'est-à-dire, je choisis en permanence. C'est pour ça qu'on va avoir, par exemple, Neil Donald Walsh qui va nous dire, ben, un maître, c'est celui qui choisit toujours la même chose. Mais qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit la vérité, ce qui est vrai, ce qui est réel, ben, qui on est. Bon, comme on s'est amusé à jouer le jeu de la séparation, ça suppose un jeu formidable. Mais attention, on a la fille en pleine connaissance de cause. Et donc, on a pris le risque du jeu. Et c'est pour ça que, par exemple, dans les livres de Crayon, après 2001, les attentats de septembre, du 11 septembre, eh bien, il dit, mais c'est formidable, c'est un bon quantique dans l'amour, votre histoire des tours de Manhattan, parce que vous aviez été tous d'accord pour le jeu J.E.U. Ça paraît quand même bizarre, mais en fait, oui, on a pris le risque de jouer ensemble. Parce qu'en fait, dans la séparation, je crois que je suis séparé, donc que je suis victime, mais je crée immédiatement quelqu'un qui vient me victimiser, un bourreau. Et c'est vraiment ça. Et donc, c'est la pièce de théâtre parfaite. Et Neil Donald Walsh, par exemple, dans un de ses livres, qu'il a intitulé La Petite Âme, l'histoire de la Petite Âme, il a fait même un petit livre spécial et à part, où cette petite âme dit à une autre âme, enfin, une autre âme vient lui dire, écoute, je t'aime tellement, et je vais te faire faire une expérience extraordinaire. En fait, c'est l'expérience du pardon, mais c'est pas dit comme ça. Et c'est, je vais venir dans ta prochaine vie, et je vais te faire quelque chose de vraiment, vraiment méchant, de vraiment atroce. Mais surtout, quand je vais faire ça, surtout, rappelle-toi bien qui je suis. C'est pas évident, mais pourtant c'est ça. Et j'aime bien partager ici que il y a 3 ou 4 ans, j'étais un jour chez moi avec Caroline, qui canalisait qu'il y avait des contacts avec l'esprit à des profondeurs incroyables. D'ailleurs, elle n'était pas proche chez moi, elle était au téléphone. Elle était avec son Provence, moi j'étais à Paris. Et souvent, quand je parlais, elle commençait à capter, à monter en vibration et à toucher ce que je vais appeler des multidimensionnalités. Bon, c'est des façons de parler. Et tout d'un coup, on s'est mis tous les deux à pleurer, et elle était en larmes avec son Provence, et moi j'étais au téléphone à Paris, et elle me dit, mais et je sentais, je vibrais avec elle, parce que je voyais ce qu'elle voyait, et elle me dit, je suis en train de voir le lieu, c'était sa manière d'exprimer, je suis en train de voir le lieu où on choisit ensemble les rôles qu'on va jouer. Mm. Mais pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle me dit, mais c'est d'un amour, mais un amour, mais incroyable, parce que c'est que l'amour. Et donc les rôles que nous jouons dans cette pièce de théâtre, ce n'est que par amour. Parce que nos pensées sont immédiatement honorées par l'amour que nous sommes. Et donc cette pièce de théâtre magnifique, ça commence à prendre un sens. Et c'est extraordinaire. Oui.
Par amour, pour se réveiller ensemble. Bien,
pour se réveiller ensemble, absolument.
Voilà. Pas pour l'acte gratuit. Qui
bien sûr, bien sûr.
Hein, c'est ça, pour se réveiller ensemble. Ouais.
Pour se réveiller ensemble, c'est d'ailleurs le but de tout. Cet univers imaginé, c'est le réveil. D'ailleurs, c'est le but de notre incarnation, à tous, les 6 milliards 800 millions, le but, c'est pas d'aller faire de l'argent, c'est pas d'aller faire des nouveaux mouvements politiques et des nouvelles façons de vivre sur la planète, ça va arriver. Il va y avoir des nouvelles façons magnifiques, ça c'est vrai. Mais c'est pas le but. Le but, c'est le réveil. Le but, c'est la joie de retrouver qui nous sommes, c'est extraordinaire.
Se reconnaître,
oui. Tout à fait.
Ce qui me vient là comme ça, c'est Dieu fait la création de Dieu, c'est pour se connaître, enfin se reconnaître. Enfin, je ne sais pas si c'est perçu, enfin ça me vient comme ça de le dire, mais.
De toute façon, les mots sont toujours. Les mots sont duels. Donc les mots sont. Le cours, d'ailleurs, en parle, ils sont deux fois distordus. C'est par celui qui les émet et par celui qui les reçoit. Parce que les mots, ce sont des symboles qui, effectivement, celui qui parle, il exprime quelque chose, il exprime une vision intérieure par des symboles. Et celui qui reçoit les mots, d'abord, il faut d'abord qu'il parle la langue, parce que s'il parle, moi, si on me parle en chinois, je ne comprends rien, je suis pas seul d'ailleurs. Et la personne qui reçoit les mots, elle les interprète. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire, on ne se rend pas compte à quel point. À des moments, on va parler clairement dans un groupe, on va dire des choses extrêmement simples, et après ça, on a des sons de cloche incroyables avec des interprétations extrêmement diverses. Donc, les mots sont des outils utilisés par la conscience que nous sommes, par l'esprit que nous sommes, mais en soi, la vérité n'est jamais dans les mots. C'est pour ça que les querelles entre les mots sont totalement inutiles. D'ailleurs, le cours nous dit, si vous voulez la controverse dans les mots, vous la trouverez toujours. Toujours. Et c'est par là que ça se place. Et c'est pour ça que les mots sont accueillis. Et quand on accueille avec amour, alors on s'émerveille des langages de chacun, de la façon dont chacun exprime les choses, et on laisse aller. Et on accueille, on laisse. On accueille, on laisse. Et y compris d'ailleurs un cours en miracle. D'ailleurs, il dit lui-même, le cours est une illusion. Tout est illusion ici. Même le pardon, qui est la clé de tout, c'est la dernière illusion, c'est-à-dire, c'est pas dit comme ça, c'est la seule illusion qui aide à passer au-delà de l'illusion, c'est-à-dire à se réveiller. Parce qu'il n'y a rien à pardonner. Et le pardon permanent dont parle le courant miracle, c'est, mais il n'y a rien à pardonner, tout va bien. Ça semble aller très mal, d'accord. Sur cette planète, la plupart des gens hurlent de douleur, d'accord. On voit des peurs partout, d'accord, en apparence. Mais en fait, tout va bien. Tout va bien. Et donc, je vois ça, et très souvent, on vient nous dire, mais oui, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce que je sens que c'est vrai, mais qu'est-ce que je vais faire? Puisque dans mon entourage, il y a des attentes. Il y a des attentes partout. Même mon gouvernement, mes maîtres religieux, c'est ça, il y a des attentes. Ou même le groupe dans lequel je vais, ou dans mon travail, on attend. Et c'est là la phrase que citait Avi, que j'aime bien citer, en disant... Je n'ai pas à me soucier de quoi dire ou quoi faire à mes enfants, mes parents, mes employeurs ou qui on veut. ou même le fisc, ou je ne sais pas qui, n'importe quoi. Je n'ai pas à me soucier de quoi dire ou quoi faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Et ça devient un état permanent. Et donc je me réveille le matin et je dis, Amen, la journée t'appartient. Et vraiment, et je vis comme ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des miracles, un cours en miracle. C'est-à-dire que les situations qui me paraissaient impossibles, bien j'y vais. Et puis je suis même détaché des miracles. C'est-à-dire que si une situation paraît catastrophique, je dis tiens, oui, ça paraît catastrophique. Et c'est tout. Et j'étais sur Palto il y a deux jours avec une Américaine qui partageait ce qu'elle a vécu pendant les fêtes de Noël du jour de l'an. Et elle est enseignante du cours en miracle depuis extrêmement longtemps. Et j'étais même réveillé pour la réécouter dire son histoire la nuit dernière entre 3h et 6h du matin, où j'étais sur Palto de 3 à 6. Comme par hasard, et elle était rentrée chez elle, mais la première fois, il y a 8 jours, elle était à l'hôpital. Elle a dit, elle savait qu'elle allait avoir un accident, alors qu'elle est enseignante du cours, qu'elle fait des tas de. Elle est connue, elle écrit des livres, mais elle disait, j'avais. Quelque part, là, j'ai fait un saut quantique, parce que ce jour-là, je savais que j'allais avoir un accident. Et donc. Il y avait un temps épouvantable, il s'est mis à neiger, de la glace partout, je suis parti en patinage et j'ai heurté un poids lourd qui arrivait de front. Mon genou, je me suis retrouvé l'airbag à marcher dans la voiture, j'ai eu des côtes cassées et surtout mon genou droit était explosé. Et j'avais très mal. Et puis j'ai commencé à observer tout ça. Et bon, on m'a emmené à l'hôpital. Et j'avais mal, mais j'ai commencé à voir tout ça et être vraiment en paix, à savoir que ça avait un sens. Il n'y avait que ça qui avait un sens pour moi. C'était que ça avait un sens. Et puis après, par exemple, la police maintenant va me... Parce que la police s'est aperçue que je conduisais avec un permis de conduire suspendu depuis un an et demi. Parce que, soi-disant, je n'avais pas payé une contravention. Mais en fait, je l'avais payé, cette contravention. Donc, j'ai fait mon enquête, dit-elle, sur son lit, là. Et puis, je me suis aperçu que... c'est le bureau qui a fait une erreur. Il n'a pas prévenu l'autre service que j'avais payé la contravention. Ce qui fait qu'ils m'ont suspendu mon permis, mais je ne le savais pas. Alors, ça fait un an et demi que je conduis sans permis. Et du coup, maintenant, je vais aller en cour de justice pour avoir conduit sans permis. Et cette femme éclatait de rire. Mais non, mais c'est tellement extraordinaire, c'est fabuleux, rien n'est arrivé de meilleur parce que si je peux plus passer, j'ai plus de permis de conduire, j'ai plus de voiture, donc j'ai plus de job et je sais que tout va bien. Et ça devient très drôle. Et elle avait un témoignage, on était pris de rire, c'était extraordinaire, il y avait une vibration fantastique parce que c'est le vivant de ce dont nous parlons. C'est fabuleux. Et elle était complètement transformée. Et. Caroline aussi a vu sur internet ou je ne sais pas où, sur une vidéo, une vidéo assez longue d'ailleurs, une femme qui était pas mal dans la drogue, mais elle se droguait pas, mais elle était au Japon et il y a eu une descente chez elle et quelqu'un avait laissé de la drogue. Donc elle était en prison, 3 ans. 3 ans. Et dans cette prison, les gardiens, pour punir les prisonniers à la japonaise, il forçait les prisonniers à se maintenir droit toute la journée. Et donc c'était terrifiant parce que c'est très fatigant. Et donc tout le jeu consistait à surveiller les gardiens pour se relaxer un peu et arrêter de rester droit. Et donc lui, c'était absolument atroce. Et un jour, tout à fait à la fin de ses 3 ans, elle a eu une révélation et elle a éclaté de rire et elle a tout lâché. Et tout est devenu merveilleux. Et elle dit maintenant elle enseigne pas mal, mais elle dit, c'était tellement merveilleux que finalement j'ai envie de retourner en prison. Mais vraiment, et on peut comprendre ça. On peut comprendre. Et c'est là que ça nous montre bien cet exemple extrême, c'est vrai. Mais que toute une question de vision intérieure, toute une question de perception, et c'est ce que nous explique le cours, en disant, vous ne pouvez pas le faire vous-même, mais votre perception va changer. Laissez le Saint-Esprit changer votre perception pour vous. Et c'est pour ça que dans toute situation, à ce moment-là, on dit, ok, j'ai ça, ça ne me plaît pas, je me sens mal, ok, Saint-Esprit, si on voit le langage du cours, mais on peut employer un autre langage, on peut s'adresser à Dieu ou au maître intérieur, enfin, qui on veut, à la vie. Donc, ok, prends les rênes, je veux changer ma perception. Et c'est cette volonté qui enclenche une guérison, qui enclenche des changements. Et c'est cette intention qui est motrice. Par exemple, dans le livre de Crillon, et en particulier son livre Le Retour, qui est une grande parabole magnifique où Michael Thomas, à l'intention pure, se met à aller dans les sept maisons et à avoir des aventures initiatiques, mais très concrètes. Et c'est, il ne s'appelle pas que Michael Thomas, il s'appelle Michael Thomas de l'intention pure. Et c'est ce que nous faisons ici, où peu à peu nous clarifions notre intention pour qu'elle devienne de plus en plus pure. C'est-à-dire que notre esprit est entraîné par l'esprit que nous sommes, à choisir. C'est pour ça que le cours va nous dire un esprit non entraîné ne peut rien accomplir. Alors on va dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, c'est que du lâcher prise, et nous sommes tous dans un processus où nous apprenons à lâcher prise et à rechoisir, comme j'ai tout à l'heure dit, on choisit différemment. Alors qu'avant, on choisissait avec le but de l'ego, c'est-à-dire d'arranger les choses, de se protéger, d'attaquer, de se défendre, de faire des nouvelles stratégies. Et maintenant, au contraire, on lâche prise complètement et on choisit avec un but différent qui est le but de l'éveil, qui est le but d'accueillir, d'aimer, donc d'embrasser. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand on aime et qu'on embrasse? Le jugement a disparu et la culpabilité aussi disparaît parce que notre culpabilité est totalement accueillie. Et à partir du moment où on est accueilli, bon ben voilà, ben oui, je me sens coupable, et puis ça devient drôle. Tiens, oui, j'ai très peur, etc. Et ça devient très drôle. Et vraiment, ça devient drôle. Et on parle à ceux qui sont autour de cette table et à ceux qui écoutent cet enregistrement, parce que quelque part, il nous est dit, mais c'est vous le sel de la terre, comme disait Jésus. C'est vrai que c'est pas ce que disent la plupart des gens, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous dit notre cœur? Quelque part, ça nous parle. Et si on est là ensemble, c'est pas pour rien. Bien sûr, on n'a pas choisi personnellement, parce qu'on ne choisit rien personnellement. Simplement, on accueille la situation, on accueille là où nous sommes, et on dit, ok, d'accord, je prends ma place, parce que je sais que je ne fais rien. Comme disait tout à l'heure Ali en citant cet auteur, c'est Dieu qui joue sa musique à travers moi. De parler, ça veut dire, comme disait Jésus, ce n'est pas moi qui agis, c'est le Père en moi qui fait les œuvres. Et vraiment, c'est très concret. Et on se réveille le matin, vide, je ne sais rien, je n'ai aucune opinion sur rien, tout est neutre, et donc, j'ai tout lâché. Et à ce moment-là, ça devient extrêmement joyeux. Et je me sens libre. Et ça nous parle. Pourquoi ça nous parle? Le cours nous dit, bah parce que c'est qui on est, et que nous savons très bien que nous parlons. Même si ça a été caché, obscurci par ce qu'il appelle les nuages de la culpabilité, de la peur, etc. Mais qui nous sommes est inviolable, c'est éternel, c'est immuable. Et donc, et c'est ça qui nous parle, sans cesse, c'est qui nous sommes. Et justement, j'ai tiré la carte là, de cette leçon 49, la voix de Dieu me parle tout le long de la journée, c'est la leçon 49 du cours. Mais qui c'est cette voix de Dieu? Mais c'est ma voix, c'est la voix de qui je suis. C'est la voix de qui nous sommes, et il n'y en a qu'une. C'est pour ça que le cours nous dit, il n'y a qu'un seul enseignant, il l'appelle le Saint-Esprit, mais c'est qui nous sommes. Alors il appelle ça le Christ aussi, le Christ que nous sommes. Ça c'est un vocabulaire pour parler de quelque chose qui est au-delà des mots. C'est pour ça qu'on ne va pas rester bloqué, par exemple dans le livre bleu, Un cours en miracle. Et dans l'introduction du cours, ça commence par « Ce cours est un cours en miracle, ceci est un cours en miracle, c'est un cours obligatoire. » Ça a été très souvent mal compris. Parce que le cours obligatoire, ça ne veut pas dire qu'il faut lire le livre. Ça veut dire que, quand c'est obligatoire dans l'enseignement non-duel, ça veut dire que ça ne peut pas se passer. C'est-à-dire que ça veut dire que tout le monde est sur un cours en miracle. Mais c'est une façon de parler, ça veut dire que tout le monde est dans un processus d'éveil, soigneusement dirigé par l'esprit. Avec, en particulier, l'utilisation du temps, de du temps imaginaire, qui est utilisé par l'esprit. Et c'est pour ça que le temps, les cours le précisent, il y a l'utilisation par l'ego du temps pour prouver que la séparation est réelle, et il y a l'utilisation du temps par l'esprit, qui, dans un temps apparent, peut-être illusoire, mais qui nous apparaît réel, eh bien, nous guide pas à pas à nous réveiller. Le moment où nous nous réveillons, et Avid aime bien citer cette phrase, est déjà en nous, c'est-à-dire que tu vas t'éveiller à ton propre appel à l'éveil qui est déjà en toi. Et à travers Jean-Yves et la voix de la maîtrise, Jésus nous dit, le moment où vous vous éveillez, vous le savez déjà. C'est-à-dire que ce soit cette vie-là, une autre vie, etc., parce que vous savez tout, au niveau de qui vous êtes vraiment. Donc à ce moment-là, cette notion d'être éveillé, est-ce que Eckhart Tolle est éveillé, est-ce que Osho, est-ce que ceci, cela, est-ce que Jésus, c'est pas intéressant. C'est très bien, ça peut aider, mais c'est pas là que ça se place. Ça, ce qui est important pour moi, je parle au nom de tout le monde, mais c'est pas pour moi, c'est ce que j'en fais. C'est la joie maintenant, parce qu'on ne vit que l'instant présent. Toujours l'instant présent. Dans l'instant présent, qui je suis. Donc je choisis qui je suis. Et c'est là qu'arrive la confiance. Je sais qui je suis. J'ai peut-être une émotion négative, je peux me sentir très mal, mais tout va bien. Et j'aime bien toujours partager, parce que quand on se voit les uns l'autre, on dit bonjour, on dit comment vas-tu, comment vas-tu, comment vas-tu. Et à chaque fois, j'ai cette pensée, mais tout le temps, systématiquement, je vais très bien. Alors bien sûr, je dis oui, ça va, mais j'ai envie de dire, mais je vais toujours très bien, et tout le monde va très bien, mais je peux me sentir très mal. Mais je vais toujours très très bien. Et tout le monde va toujours très très bien. Parce que tout le monde est divin. Et le divin va toujours très très bien. C'est sa nature. C'est vraiment ça. Et donc, alors on joue le jeu. Tiens, bonjour, comment vas-tu? En fait, ça veut plus dire, comment te sens-tu? Et puis bon, je me sens pas bien. Très bien, ok. Et là, il y a compassion. Il y a, ok, je comprends. Je comprends. Et on comprend tout. Et j'aime bien aussi citer, il y a 3 et 4 ans, quand Caroline, qui était chez moi, avait des moments difficiles, et donc je l'invitais à, parce qu'elle avait son bloc-notes, et elle posait des questions à ses guides, par sa voix intérieure. Elle le faisait assez rarement, mais et alors, à des moments, vraiment, elle posait la question, elle écrivait son écriture soignée, posait la question, cher guide, bon. Et j'ai observé, et je n'intervenais pas, je n'avais rien dit, bien que tous ces messages, elle répondait, c'était très court, quelques lignes, 5, 6, 10 lignes, 15 lignes, pas plus. Ça commençait toujours de la manière suivante. Tout va bien, Caroline, nous te comprenons. Hein, c'est fort, ça. Et c'est exactement ce qu'on fait avec tous nos frères et sœurs. C'est-à-dire qu'on sait que tout va bien, et en même temps, la personne est mal, je te comprends. Tu fais un cauchemar, je te comprends. Tu t'imagines faire un cauchemar, mais je te comprends, je connais. Parce que je suis venu me réincarner, je ne sais pas combien de fois, pour justement épouser tout ça et le vivre. Et donc, tes pleurs, tes larmes, tes cris de désespoir, je connais. Donc je te comprends. Et je sais que tout va bien. Tout va bien.
Je suis guidé à parler de l'humilité, c'est-à-dire de moi-même, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas quoi décider. C'est-à-dire, c'est pas mon ego qui peut dire ce qui est bon pour moi, parce que l'expérience de ma vie m'a montré que l'ego m'emmenait dans des endroits qui ne m'aidaient pas, qui étaient sombres, tortueux, source de conflits, source d'augmentation d'agitation. Je reçois par exemple un email qui me dit « Avi, tiens, je t'expose un système là, est-ce que tu as envie d'adhérer à ça? Réponds-moi. » Et moi je dis « Je ne sais pas. » Et si j'avais essayé tout de suite d'avoir une réponse, ça aurait peut-être pas été la réponse juste. Ça aurait été pour lui faire plaisir, c'est la personnalité. Hein. Pour obtenir un avantage, c'est encore l'ego. Et je vois l'importance de dire, bah là j'ai pas de réponse. Là j'ai pas de réponse, donc pause, stop. Je répondrai quand je répondrai. Et puis je fais confiance que dans cet état d'esprit, où j'essaye pas à tout prix d'avoir une réponse, la réponse viendra. Je suis le roseau creux, hein, et j'attends que la musique arrive. Et je ne suis pas pressé de répondre non plus. Et puis si je ne le sens pas, je ne le sens pas. Hein. C'est aussi bien que si je dis oui à cette proposition. C'est neutre. Alors, cette attitude-là, comme disait Sylvain, commencer la journée comme une page blanche dans laquelle les choses s'inscrivent toutes seules, et ce n'est pas moi qui contrôle leur déroulement, ça laisse une place au pur esprit que je suis pour me guider. Sinon, il n'y a pas l'espace. L'espace commence avec l'humilité. L'humilité, c'est pas moi qui suis en charge, hein, comme la dernière leçon du cours, là. Sois en charge, je ne m'en rappelle plus la suite, mais c'est toi qui es en charge de ce que je vais dire ou ce que je vais faire.
Sois en charge à ma demande.
Voilà. Alors moi, j'ai tiré la leçon 165, que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Et quand est-ce que je nie la pensée de Dieu ? Quand j'agis avec ma personnalité, parce que ma personnalité, c'est celle qui veut renforcer la séparation. C'est celle qui veut rajouter une couche. Et la pensée de Dieu, c'est tout accueillir. Et nous sommes un. Et tout est l'amour et tout ce qui est. Donc, c'est vraiment dans un changement de vision. C'est-à-dire, j'ai une situation qui m'arrive. Est-ce que je nie la pensée de Dieu en interprétant cette situation avec l'esprit faux, avec l'ego qui veut être dans la réactivité, ou est-ce que mon esprit se rappelle de qui je suis et laisse qui je suis me guider? Donc c'est puissant, hein, cette phrase, que je ne nie pas la pensée de Dieu. Et moi, ça commence par, dans cette situation, je ne sais pas quoi faire. Bah, j'attends, ça viendra, c'est pas pressé. Ou alors, je reçois un message, et là, waouh, ça résonne, j'ai envie d'y aller. Mais c'est toujours pas la stratégie. Et c'est le cœur. Je reçois un bouquin qui s'appelle Le Messager, là, un Canadien qui est allé visiter en rêve la Nouvelle Terre, qui décrit des choses absolument merveilleuses. Et il dit, s'il vous plaît, aidez-moi à diffuser le livre. Et moi, tout de suite, ça dit oui. J'ai même pas fini le livre, je dis oui. Et là, c'est évident que c'est juste. Je dis, j'ai lu que 20 pages, mais mon cœur dit oui. Et c'est ça, je ne sais pas. Hein, je laisse l'esprit que je suis à travers mon cœur, puisque c'est la voie d'expression de cet esprit, me dire quoi faire, quoi dire. Et là, je peux être assuré de rester dans la paix avec ce GPS-là. Ce système de guidance personnalisé. Donc, l'ego a besoin de lâcher un peu l'histoire de « je veux savoir ». L'ego a besoin de lâcher l'histoire de « je veux contrôler ». Parce que sous des apparences de sécurité, ce système-là ne marche pas, sinon ça se saurait. Hein, n'amène pas le bonheur et la paix parce que ça se saurait. Et c'est parce que j'ai essayé suffisamment que je peux aujourd'hui m'appuyer sur ce que je veux, hein, plutôt que ce sur quoi j'ai été déjà entraîné dans ma vie. Donc, que je ne nie pas la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est tout est amour. Que l'amour soit mon guide. Et que je laisse cet amour filtrer à travers moi pour me diriger. Il y a besoin, comme dit souvent Sylvain, d'avoir confiance. Mais c'est comme un processus qui s'auto-alimente, parce que je commence à avoir confiance, je vois la paix qui grandit. Je vois la paix qui grandit, j'ai envie de faire encore plus confiance. Mais j'ai besoin de faire le premier pas. Le premier pas, c'est je ne sais pas, mais j'y vais. Hein? J'avance, hein, avec ma guidance. Et peu importe ce qui se passe en face de moi, je suis guidé toujours au meilleur endroit possible, parce que il n'y a que la pensée de Dieu, et la pensée de Dieu, c'est celle qui veut le meilleur pour moi. Il n'y a pas autre chose. Voilà, je peux commencer à me détendre là-dedans. Je ne sais pas où je vais, mais c'est très bien comme ça. Alors l'ego n'aime pas du tout, évidemment. C'est pas fait, c'est pas des phrases qui sont destinées à l'ego. C'est même...
Ça ne rassure pas l'ego.
Non. C'est même la négation de l'ego qui dit tu ne contrôles rien, mais tout va bien. Pour l'ego, c'est catastrophique de rien contrôler. Donc j'observe l'ego qui s'agite et j'envoie de la compassion sur la pensée de séparation qui veut absolument rester séparée. Parce que c'est une partie de mon esprit, hein, qui a besoin d'être pacifiée, comme la colère, comme la haine, comme la jalousie, l'envie d'être séparée. c'est un manque de paix. Hein. C'est un jeu aussi, mais que j'ai pris au sérieux. Donc je suis rentré dans un conflit avec Dieu ou avec moi-même. Et puis la seule façon de sortir de ce conflit, c'est de laisser Dieu à nouveau me guider. Hein, parce que Dieu n'a jamais changé d'avis. Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne prend pas rendez-vous chez le dentiste. Hein. Dieu n'a pas mal aux dents. Hein. Dieu est dans la paix éternelle. Hein, et c'est ce que je suis quand j'arrête de me focaliser sur qui je ne suis pas. Voilà, c'est un apprentissage qui peut se faire progressivement. C'est une bonne nouvelle parce qu'il n'y a pas besoin de savoir ça d'emblée. Il y a besoin de faire ce premier pas qui, comme dit Krishnamurti, le premier pas est le début, le premier pas est la fin, et le premier pas est le seul pas. Je fais ce pas et je fais confiance qu'il va enchaîner d'autres pas. Et je vois que c'est à l'heure dans ma vie. Voilà, c'est l'heure de terminer, du moins officiellement, puisque c'est afin de libérer ceux qui doivent partir, qui sont déjà libres, c'est une manière de parler. Tout ça, c'est officiel. Et puis ensuite, nous pourrons continuer entre nous, si nous le souhaitons. Voilà, je vous dis dans la joie et le plus de paix possible. À la semaine prochaine.